éviter de dire journée de la femme. Ouais. J'étais fatiguée, c'est pas une fête.
On aurait dû commencer par ça.
Bonne c'est fête. Bonne, dit, bon, on, bonne fête de quoi?
En fait, vous fêtez rien.
On fête rien.
C'est un jour de combat.
On réfléchit, on se dit, voici ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire.
Shalom.
Salam.
Bonsoir.
C'est ça ton choix. Comment ça va, Megan?
Ça va, et toi?
Très bien, très bien.
Depuis le temps qu'on devait faire ce podcast.
Exactement.
Ça fait des mois et des mois et des mois.
Qu'on est dessus, ouais.
Megan est une dame occupée.
Non.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis Megan Beau, présidente de la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes. Je suis une professionnelle des médias et de la communication. Mm-hmm. Et aussi promotrice de la nouvelle marque Féministe Radicale, Radical Feministe.
Ah voilà, c'est ta propre marque, ok.
Ouais, et je suis une passionnée de foot.
Mmh. Ah, il faut le savoir, ça on ne savait pas. Donc la CAN t'a régalé.
Je suis passée par toutes mes émotions, c'était chaud. Et aussi j'ai regardé des matchs à l'extérieur, j'étais au Maroc, donc vous imaginez.
Et tu étais au Maroc?
Oui, pour le match.
À quel moment de la
compétition? Le match Côte d'Ivoire-Sénégal, Côte d'Ivoire-Mali, c'est...
Tu étais au Maroc.
J'étais la seule Ivoirienne dans l'hôtel. Vous imaginez que tous les Marocains me disent ça, on a gagné. Oh, okay.
On a gagné, oui.
Ils ont gagné aussi. On est en finale.
En 2026, il faut les supporter.
Ah bah, on verra. Le merci peut finir un peu, mais on verra.
Non, mais écoute, super. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai que Kaye et moi, on tient à préciser que ce n'était pas du tout un épisode. C'est marrant parce qu'on essaie de t'avoir et de vraiment travailler et à inviter la Ligue avant même ce mois fatidique.
Ah, le mois de mars.
Oui, parce qu'en fait, les gens vont croire qu'on t'a invité uniquement.
Uniquement pour ça.
Parce que je pense, est-ce que c'est vrai qu'en gros, tout le reste de l'année, on vous ignore et à ce moment-là, tout le monde vous invite?
C'est ça, en fait. On devient un peu un sujet de conversation obligatoire. Des entreprises, des gens qui ne nous parlaient pas, qui apparaissent à une semaine, qui nous disent « Ah ben, on peut vous avoir pour un panel ?» Je lui dis « Bah, si vous voulez un panel, vraiment, on le prépare, quoi. » C'est-à-dire que vous nous écrivez un mois avant, quoi. Au moins, pas deux jours. On n'est pas des...
Ah ouais, parce que les gens, ça arrive à deux jours, c'est ça?
Ils arrivent à deux jours souvent et c'est un peu comme des bouche-trous. C'est-à-dire qu'on a une ligne budgétaire pour un truc RSE, pour le 8 mars. Il faut forcément inviter des assos et puis on vous appelle comme
puis,
si...
Puis dépêchez-vous, quoi.
Dépêchez-vous. Au début, on courait parce qu'on était dans nos débuts. On voulait essayer de trouver une place. Mais franchement, là, je cours plus. Tu ne m'écris pas peut-être un mois avant, quoi. Parce qu'il y a tellement d'activités, pas qu'on fait beaucoup de représentations, mais il y a des activités que nous-mêmes on.
Mais vous avez des choses à faire à ce moment-là, ça, c'est votre mois de travail.
Tous les jours, quoi, parce que bah, la Ligue, c'est tous les jours. C'est pas juste en mars. En mars, cette année, on a fait juste deux activités la semaine passée. Mais chaque jour, on travaille. Donc, on n'est plus vraiment des bouche-trous et on tient vraiment à se faire respecter parce qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent même pas ce qu'on dit. Ils veulent juste cocher une case pour dire on a invité une activiste ou bien la Ligue pour le 8 mars et puis au revoir, quoi.
Damn.
Mais c'est intéressant parce que au-delà nous de la thématique qui nous parle, ce qu'on voulait aussi savoir, c'était vraiment on voulait aussi parler parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent qui sont dans l'entrepreneuriat mais qui sont pas forcément dans cet qui se reconnaissent pas forcément dans cet aspect tout le temps purement business et donc dans l'entrepreneuriat social, savoir comment est-ce que du coup on fonctionne quand on est activiste, monter une organisation, c'est quoi la différence entre une ONG, une association, etc. Et finalement, quels sont les moments finalement de récompense en fait? Pas justement parce que nous, on va dire oui, il faut le profit.
Ouais, nous, notre vie est simple. Mais... On va juste regarder les chiffres.
C'est vrai aussi.
Donc, c'est de tout ça dont on veut parler. Mais avant ça, pour le foot, là, tu supportes quel club du coup?
Bon, moi, je
sans transition, bon, juste pour être clair,
pour moi,
pour situer qui elle est.
J'essaie de dire la vérité, je suis une messianique, c'est-à-dire je suis Messi par en fait. Donc,
j'adore pas Ronaldo, quoi.
Le Barça, bon,
Le team Cristiano va se fâcher, mais voilà.
Le Barça, c'est la famille. Moi, j'ai connu le foot, on va dire, le foot avec Messi autour de 2006-2008. Mon père, il me faisait regarder le foot quand j'avais 5 ans. Je me souviens de la Coupe du Monde Corée-Japon. Je me levais à 6h avec lui pour...
2002. Victoire de Brésil.
Pour noter.
Ronaldo phénoménal.
Oui. Il y avait un petit, tu vois, les petits carnets des papas, là. où on notait les scores. C'est moi qui notais pour lui. Donc, 2006, je découvre Messi qui fait pleurer Drogba avec Iniesta qui enlève son t-shirt. Je me souviens de cette scène-là. Et je me suis fait chambrer à l'école parce que j'étais Chelsea, quoi. C'était Drogba.
Oui,
tous les Ivoiriens de Chelsea.
Exactement. Et là, j'ai dit, mais c'est qui ce petit-là qui fait ça? J'ai commencé à suivre l'équipe et j'ai vu que l'adorais. Quoi, que
Il est pas mal, le petit Messi.
Donc voilà, je suis messianique. Je suis en couple avec les Français. Donc imaginez la finale de la Coupe du Monde
France-Argentine.
Je supportais qui?
Mais
Argentine.
Tu supportais l'Argentine, tu as laissé la France. Ça, c'est problème de couple sérieux, là.
Pour montrer mon attachement, en fait, parce que je me dis, il méritait au moins ça.
C'est vrai que c'était sa dernière coupe que vous cherchiez.
Exactement, on avait tout, quoi.
Pour l'histoire. Donc, mettez en commentaire les teams Cristiano, là. C'était pour la parenthèse.
Mais du coup, juste sur la même parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas conclu cette histoire du timing, parce qu'il faut quand même qu'on précise aussi que... On s'est dit, je crois que la première fois où je vous avais écrit, c'était à la Ligue en novembre, quelque chose comme ça.
En novembre, c'est vrai, je confirme.
Donc tu peux témoigner, la cause que nous ne sommes pas ceux qui vous appellent juste au mois de mars.
Je confirme, c'est pas des opportunités.
Merci beaucoup. Non, parce que, il faut le savoir, c'est vrai qu'on le dit pas souvent dans le podcast, mais ceux qui nous connaissent de longue date sachent qu'on est tous les deux en plus des féministes. On se revendique comme tel, c'est assez rare des hommes qui se disent féministes, encore moins en Afrique. Et comme disait Kaï, j'ai toujours dit, non, mais ce serait bien qu'on trouve une occasion. Parce qu'on adore ce que vous faites et on aimerait soutenir autant qu'on peut. Mais on s'est dit, mais en fait, vu que notre mission, c'est aussi de montrer l'envers du décor et que les gens aient envie de soutenir, mais on s'y découvre, on s'est dit non, il faut qu'on trouve l'occasion de le faire bien. Donc, on s'était posé plein de questions sur comment. Et là, je me suis dit non, mais on va faire simple. Et comme disait Kaï, on veut vraiment, toi, un peu comprendre, mais comment tu as commencé ça? Qu'est-ce qui t'amène dedans? Comment tu tiens? Parce que c'est pas facile.
Du tout, c'est pas facile.
Ouais.
C'est pas facile.
Comment tu te lances alors? C'est quoi la vision de départ?
Alors, faut dire que je suis dans l'engagement communautaire depuis 2012 à l'université Félix Houphouët-Boigny. De Cocody, département d'anglais, j'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle Leadership Initiative Board parce que j'ai une licence en linguistique appliquée, en spécialité anglais.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et on va dire qu'il y a eu un déclencheur. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'université, je venais à peine de perdre mon père.
Ah oui.
Et je venais à peine d'avoir 18 ans. Donc je me suis dit, j'ai pas vraiment de personne pour me backup. Et avec ma mère, moi, ma petite sœur. Et je me suis dit, il fallait que je marche avec les gens de master pour savoir un peu comment ça fonctionne, en fait. Donc j'arrive, je marche avec les gens de master. Et une fois, il y a eu une opportunité pour aller aux États-Unis pour une bourse qui s'appelle le Study of the U.S. Institute for Women Leaders. Et le truc est passé, on ne m'a pas dit, de bouche à oreille. Et il y a un qui a dit, non, la petite là, elle est toujours avec nous, elle est dynamique, il faut lui envoyer. On m'a envoyé la veille et c'est un ami qui s'appelle Maxime, Big Up Maxime, qui m'a envoyé la veille. J'ai postulé et j'étais sélectionnée pour les États-Unis en 2015. Et tu arrives aux États-Unis, mon premier passeport, c'est un visa américain. J'avais jamais pris un avion, ni même un escalier roulant. Je venais juste d'arriver à Abidjan, quoi. Parce que j'ai fait mes études à Guitry.
Où ça?
Guitry. C'est près de Divo.
Ah oui, d'accord. C'est Divo, sur la route de San Pedro. Là.
Oui, pour aller vers Gagnoa.
Ah,
oui,
donc
oui.
Toi, tu venais d'arriver à Abidjan même?
Oui, je venais d'arriver à Abidjan, une petite, on va dire, Gbao, quoi.
Vendaloa, oui, oui, oui.
Je connaissais pas trop la vie, donc t'arrives aux États-Unis, t'atterris à Washington, mon gars. Au Melrose Hotel, le lit, je jure que je pensais que je dormais dans les nuages.
Tellement le lit là était doux.
En fait, t'arrives, tu découvres toute une vie, une université, t'es comme une étudiante aux États-Unis. Et là, je me dis, mais faut que ça change, quoi. J'ai appris tellement de choses sur la condition des femmes. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, je reste pas assise. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux droits des femmes. Parce qu'avant, c'était juste engagement communautaire, leadership des jeunes. Mais là, j'ai dit, il y a tellement de choses que les femmes...
Mais t'avais quand même déjà cette fibre, parce que tu dis que le déclencheur, c'est ce voyage, mais finalement, t'avais déjà cette fibre. Parce que même si c'était pour la jeunesse...
Oui, c'était pour la jeunesse.
Ce truc de pensée communauté.
Pensée communauté, on va dire que mes deux parents sont des personnes assez ouvertes qui sont, mon père, il est décédé, qui était impliqué. Mon père, c'est un leader né, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive quelque part, on doit choisir une personne pour représenter, c'est mon père. Donc, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris comment parler et tout. Et quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai rencontré Sephora Kojo.
Ses fils,
qui a été une mentor pour moi. Et c'est là-bas que j'ai appris les premiers petits pas dans l'associatif, droits des femmes et tout. Et en 2019, je travaillais pour l'UNFPA.
Pour
l'UNFPA, aux Nations Unies.
D'accord, aux Nations Unies, ok.
Aux Nations Unies, et je travaillais comme junior digital strategist. Et là-bas, j'ai vu des chiffres sur les violences faites aux femmes. Et j'ai été choquée parce que je me disais, on parle souvent des violences faites aux femmes, mais là, j'ai été choquée de me rendre compte que...
Tu te souviens de quels sont les chiffres?
J'avais pas les chiffres, mais c'était beaucoup de... C'était un rapport, en fait, qui était sorti. Okay. Et pourquoi ça m'a choquée? C'est parce que je suis une survivante de viol, moi aussi, et des violences conjugales.
Ah.
Exactement.
Ah, ça, on savait pas, d'accord.
Et savoir qu'il y avait beaucoup de personnes, de femmes qui vivaient ça, ça m'a fait un gros choc. Et sur Internet, j'ai rencontré des femmes qui pensaient comme moi. Et on a monté la Ligue, on était 8. La Ligue est née sur Facebook, sur Messenger, on va dire.
Vous étiez 8?
Oui, on était 8.
Avec des personnes que tu as rencontrées sur Facebook?
Sur Facebook, il y en a certaines que je ne connaissais pas du tout, qui sont aujourd'hui mes meilleures amies. Mais on pensait pareil, on avait les mêmes idées.
Et qu'est-ce qui vous a réunis? Comment vous êtes rencontrées?
C'était un cas, il y avait un cas qu'on appelle le cas Ghislaine Kobi, comme on aime le nommer. C'était une jeune dame qui avait été frappée et blessée par le fils d'un roi de Mossoul, je crois. Et l'affaire n'avançait pas, quoi. Et on s'est mis ensemble pour essayer de faire un plaidoyer, pour parler d'elle. Le 8 mars, on a boycotté le pain du 8 mars. On a dit, le pain, il change et nos droits. Et on s'est rendu compte qu'on pensait pareil. On a commencé à s'écrire. Je connaissais une ou deux. Et de deux...
Ça, c'est en quelle année, Amiga?
En 2019, quand on s'est rencontrés. Mais la Ligue a existé vraiment en 2020. Et le premier cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une jeune dame qui était tombée dans
l'immeuble.
Exactement.
C'est comme ça que moi, je vous ai connu.
Exactement. Et là, on s'est pris une grosse vague de haine. Hein.
Mais attends, juste redonne-moi le contexte. Donc là, on parle en 2019.
Oui.
Vous vous rencontrez d'abord pour défendre Ghislaine.
Ghislaine, oui.
Qui, elle, avait eu ce problème avec le fils du roi, etc. Donc ça, c'est comment vous vous rencontrez?
Oui, sur Internet.
Sur Internet pur, parce que vous voulez toutes aider.
Oui, c'est ça.
Et après, c'est après ça qu'il y a eu le cas de la... Donc, comment s'appelle la dame qui est tombée du...
Jackie, je crois, mais j'ai oublié le nom. Ouais. Et ce qui est bien aussi avec les cas de VB, je n'en donne pas l'identité des survivants. Donc, je donne juste le prénom Jackie.
Ah,
en cas de VBG, on ne donne pas l'identité. On essaie de protéger la survivante ou la victime parce que souvent, tu as envie de te reconstruire, mais tu vois ton nom partout sur les médias qui montrent...
Ah oui, c'est vrai que si on tape ton nom et ton prénom, si c'est quelque chose qui a été évoqué partout, tu le reverras.
Oui, et surtout les photos, il faut flouter les photos. Il y a plein de choses, en fait. Donc, je ne peux pas du tout, son nom s'appelle Jackie.
Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est, tu vois, c'est un truc que nous, on ne sait pas.
Il y a beaucoup de Jackie.
Oui, parce qu'en fait, toi, en fait, on a le raisonnement inverse qui, en fait, finalement, n'est pas logique. Tu dis pour genre hommage, tu veux dire le
exactement.
Nom. Alors qu'en fait, la personne n'a pas envie d'être retenue pour
ça.
Pour ça. Surtout si c'est une survivante.
C'est ça, en fait.
Tu vois, on apprend déjà une très bonne pratique qu'on découvre, tu vois. Avec, moi, j'avais pas en tête, moi, par défaut, j'aime toujours avoir le nom des gens. Je me dis, c'est des êtres humains. Tu peux pas juste dire une femme, une personne, alors que c'est quelqu'un qui, la vie a été marquée. Ouais.
OK. Il faut protéger ça.
C'est très vrai. Et du coup, donc cette histoire, c'est donc après, donc c'était combien de temps après
Je crois 2 à 3 mois après. Hein.
Deux ou trois mois après que vous êtes rencontrés, direct, il y a eu ce problème.
En fait, moi, il y a une personne que. Au fait, on s'est rencontrés le jour où on allait chez Jackie. Mm-hmm. Par exemple, Désirée Denéo, qui est ma secrétaire générale, que j'appelle mon 10, parce qu'elle est super.
Ouais.
Et c'est le jour où on allait sur le cas à Yopougon qu'on s'est rencontrés en vrai. C'est-à-dire, depuis des mois, on parle, on fait des stratégies, on s'était jamais vu. Et là, on va chez Jackie, on fait un direct live pour parler de la situation. Et il y a nos photos qui font le tour d'Internet et on nous insulte de ouf. C'était mon premier harcèlement en ligne.
Mais vous insultez pourquoi? Je comprends pas.
Vous insultez pourquoi?
On nous dit qu'on est des quacquatos, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Ah bon?
Des quacquatos, quand on se mêle de la vie des gens, qu'on est, on a des locks. Moi, j'ai des locks sous maîtresse. On nous dit qu'on est des drogués, on est sales. Qu'on va nous...
Hey, donc tous les clichés sont sortis sur vous là-bas.
Qu'on va nous violer, en fait, des choses comme ça. Bah, les menaces de viol et de mort, il y en a plein de mes amis qui ont fait ça. Hein.
Ça, c'est un truc qui me choque toujours. C'est-à-dire que jusqu'à déjà ce jour-là, il y a des gens qui spontanément vous écrivaient et vous menaçaient de mort parce que vous parliez d'une dame qui est tombée.
Et comment on vit un harcèlement de ce type?
On le vit mal. Ouais. On le vit mal pour le début parce que moi, c'était en 2020 que je commençais à affirmer, on va dire, mon féminisme en fait. Parce qu'avant, j'utilisais le mot droit des femmes, autonomisation, mais dire que je suis féministe, c'était comme une révélation pour moi. Et subir ça, au début, on l'a pris un peu mal, mais après, on s'est dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'au final, les gens ont commencé à savoir ce que faisait la Ligue. Parce qu'au début, c'était juste un petit groupement de 8 femmes. Et là, on va dire, l'idéologie a commencé à aller un peu plus loin.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros déferlement de haine, mais également. des personnes qui, grâce à la notoriété, sont venues rejoindre les 8 premières.
Exactement. On était 8 au début. Là, je peux dire qu'on est en tout d'une cinquantaine maintenant.
Wow. Wow,
on, okay. On est au Tchad, on est au Bénin, on est au Mali. Et okay. Là, on vise le Congo bientôt.
Ok. Super.
Mais c'est. Et du coup, juste. Parce que moi, ça me choque toujours ces trucs-là, parce que je me dis toujours, mais. Donc, non, juste pour resituer la situation. Donc. J'ai rien pas compris.
Mais ça n'a pas changé, en fait. Ça n'a pas changé du tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent utiliser notre image. Lorsqu'il y a un petit cas, on demande que pensent les féministes? Où est la ligue? Si, par exemple, il y a une femme qui a refusé de payer, je ne sais pas, une boîte d'allumettes à la maison, mais là, la ligue ne se prononce pas. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire? Chaque jour, on reçoit minimum, je dis minimum, 5 cas de violence chez nous par jour.
Chaque
jour. Vous pensez qu'on a le temps de venir demander voilà, qui a payé la boîte d'allumettes, les mères célibataires, les trucs comme ça? Au début, on répondait. Mais on a dit, c'est nous qui donnons le lead.
Exactement.
Et ouais, aujourd'hui, pour avoir des likes, tu fais un post, tu mets féministe, tu nous insultes, tu vois que des gens ont des vues juste parce qu'on insulte les féministes. Il faut arrêter de donner de la voix à ces gens-là, en fait.
Moi, je voudrais justement sur le terme féministe, parce que tu insistes sur le fait qu'à un moment donné, ça a été une révélation pour toi. C'est comme si, enfin, tu connaissais le mot, mais tu as découvert une définition. Est-ce que tu peux nous expliquer?
On va dire que... La Ligue est la première association féministe Côte d'Ivoire. C'est, quand je dis association féministe, on a utilisé le mot.
Oui, parce qu'après, tu as toutes sortes de constellations autour qui est développement des femmes. Le mot favori qui, moi, me fait beaucoup rire,
autonomisation, moi, je ne l'utilise plus. J'utilise le mot empowerment parce que le mot en anglais, c'est empowerment. Ouais. Il y a la notion de pouvoir.
Oui.
Dans l'autonomisation, je ne vois pas la notion de pouvoir.
Oui, c'est juste être autonome, mais sous le pouvoir de quelqu'un d'autre.
C'est ça. Donc, moi, je dis empowerment, c'est devenu un mot maintenant qui est rentré dans le dictionnaire, mais on l'utilise, en fait. Empowerment des femmes. Et féministe, pour moi, la révélation, elle est venue parce que je disais avant droit des femmes. Mais je me suis rendu compte que le féminisme, en fait, c'est comme pour moi un mouvement, une idéologie, une religion presque. Une religion presque. Parce qu'on m'enlève mon féminisme, on m'a tout enlevé. Quand je me lève le matin, je veux juste que les droits, que l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit qu'on est tous égaux, me soit en fait, soit une réalité pour moi, en fait. On se bat pour tout. Chaque 8 mars, on dit, mais vous avez tous les droits. Je dis, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on a tous les droits? On regarde le fait de le dire et le fait d'en jouir, c'est différent.
Exactement.
C'est différent. Donc le féminisme pour moi, c'est la défense. C'était pour on va dire le féminisme pour les nuls, c'est la défense des droits des femmes, en fait.
Simple.
Et moi, j'ajoute radical parce que quand on parle de radical, on nous dit c'est un peu comme les terroristes. Je dis non. Radical, ça vient du mot racine. Quand on parle du féminisme radical, c'est un féministe qui part à la racine pour essayer de changer les dynamiques de pouvoir. Parce que toutes les inégalités viennent d'un, on va dire, de rapports de pouvoir, en fait. Là, avant, on ne disait pas, par exemple, la violence économique. Maintenant, on la nomme parce qu'il y a des foyers, il y a des familles où le fait de détenir l'avantage économique sur la personne permet de la manipuler.
Entièrement.
De la garder. Les femmes qui viennent vers nous, qui sont battues, qu'on leur dit, bah, on va vous aider à partir, elles me disent, bon, je pars où? Qui s'occupe de mes enfants? Je mange quoi? Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, bah, je vais peut-être supporter, comme on dit, en fait. Et elle reste. Et ça, c'est un problème.
Ouais, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ouais.
C'est ça, en fait. C'est ça, parce que chaque fois qu'on parle d'autonomisation, c'est bien d'autonomiser, mais il faut donner le pouvoir aussi.
Ouais.
Le pouvoir, ce n'est pas seulement que financier, c'est aussi dans la tête. De comment est-ce que tu te perçois en tant que femme, en fait. Et moi, c'était ma révélation de voir des femmes qui pensaient comme moi, qui n'avaient peur de rien. Parce qu'on a eu des cas assez difficiles. On a fait des sit-ins devant des chaînes de télévision.
D'accord. Alors, juste, j'essaie de comprendre, du coup, pourquoi vous en êtes là, parce que j'essaie de comprendre déjà. Parce que je trouve qu'on va un peu vite, mais du coup, je me pose la question de... Parce qu'il faut savoir que j'ai fait aussi des ONG avant. Donc, peut-être que dont je ne parle...
Si, tu en as déjà parlé dans le podcast.
Rapidement. Mais en fait, quand moi, j'étais au lycée, j'avais créé une association avec des amis qui existe encore, d'ailleurs, qui s'appelle Oui pour une enfance noble.
Okay.
Question de l'enfance. Qui est de scolariser des enfants et qu'on a scolarisé plus de 2000 par an jusqu'à maintenant encore. Et qui, en fait, et un truc qui m'a toujours, moi, marqué, c'est que les gens passent sur un moment qui est important. C'est, en gros, vos premiers cas, là, dont tu parles, notamment Jackie qui est tombée du... Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a fait, vous investir plus que les autres ne le font? Qu'est-ce qui... En fait, c'est souvent ma définition pour moi d'un activiste, c'est quelqu'un qui sacrifie d'autres priorités pour ses convictions. C'est-à-dire que vous avez dû laisser... Parce qu'à l'époque, vous travaillez, vous avez des choses à faire.
Oui.
Et je connais énormément de gens qui se disent « Ah, moi, je pense que je suis un activiste parce que je poste des choses sur les réseaux sociaux, par exemple. » Et ça m'énerve profondément parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous... En fait, c'est l'action qui fait pour moi. L'activisme. Et donc, du coup, qu'est-ce qui, toi, définit un activiste? Et surtout, qu'est-ce qui vous a fait bouger sur ces premiers cas-là, comparé aux autres qui, peut-être, ont juste repartagé, ont dit « Ah, c'est grave ». Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sous tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mêmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en ouchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kaya et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram.
Bon, déjà, être activiste sur les réseaux sociaux, c'est être activiste.
Tu le reconnais comme
oui,
tel?
Oui, parce que les réseaux sociaux sont aussi un terrain.
D'accord.
C'est un espace d'expression pour les femmes. Mmh. Et comme j'ai dit, la Ligue est née sur Internet. Au début, on n'avait aucune action physique. Mmh. On faisait des visuels, on commentait. Et c'est là que, le travail, la flamme a commencé.
D'accord.
Donc, des gens qui sont sur Internet font aussi un travail. Je pense qu'être activiste, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Mmh. En disant, on peut le faire sur les deux.
Ouais.
Peut-être ce qui a changé, c'est que peut-être... Je veux dire, il y avait un réel problème. On voyait que les choses ne bougeaient pas. Et chaque fois qu'on parlait de violence conjugale, de violence faite aux femmes, on disait, ça a été toujours comme ça. Et nous, on en avait marre, en fait. Parce que moi, j'ai vécu dans un environnement où frapper des femmes, c'était normal. Et quand moi, j'ai grandi dans le foyer violent dans lequel j'étais, je me suis dit aussi, c'était normal. Le fait d'en sortir, le fait de divorcer, m'a permis de me rendre compte que non, c'est pas normal. Vois Jackie, je me dis, qu'est-ce qu'elle fuit pour se laisser tomber? Donc, en fait, c'est ça, en fait.
Quand en fait, tu c'est regardes... en fuyant qu'elle est tombée, c'est ça.
Exactement. Et quand on fait la reconstitution, il y a eu plein de choses parce qu'on a mis Jackie à quelques mètres de son agression. On lui demande de raconter l'histoire, mais elle ne va jamais dire la vérité.
En fait, elle devait raconter devant lui.
Il était juste dans une pièce à côté, il était là. On lui demande de raconter. Bah...
Mais pourquoi elle lui demande de raconter alors que le gars est là? C'est pas comme ça, non?
Du tout. Donc, c'est un peu ce qui a motivé. On a commencé à faire des plaidoyers. On allait la voir. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Mais en matière de violence faite aux femmes, ça doit venir d'elle-même.
Oui.
On peut dire des choses. On peut lui parler. Mais souvent, le déclic vient. Et aujourd'hui, on n'a plus de ses nouvelles. On n'a plus de ses nouvelles.
Même la Jackie en question.
Parce que elle a même fait une vidéo où elle nous a traité de personnes, on va dire, de popato encore. Mais c'est pas grave, c'est normal.
Enfin, elle vous a traité vous de popato.
Oui, mais c'est normal. Vous savez, il y a des personnes pour sortir du cycle violent, elles ont essayé peut-être 7, 8 fois, 9 fois. C'est difficile, en fait, de trouver la force de partir. Donc, moi, je pense que là, sur le cas, on était fatigués parce qu'on a vu des commentaires qui disaient, sûrement, elle a fait quelque chose. Mais à quel moment on peut justifier?
La violence amène quelqu'un à se défenestrer.
On demande toujours, qu'est-ce qu'elle a fait? Sûrement, elle ne respecte pas son mari. Des choses qui nous ont fait, nous dit, ça suffit, quoi. Il y en a marre. Et souvent, nous, compare au MeToo français. Je dis, non, il n'y a pas de MeToo français. Il y a eu un mouvement ivoirien qui a qui a ressurgi, on va dire, des cendres, parce qu'il y avait des féministes avant. On a d'autres féministes. Il y a Madame Constance Yahi, Madame Georgette Zemblay, qui sont des féministes qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui.
Ah
bah oui, il y a eu un moment où ça a été un peu mou, mais ça veut dire que nous, on est venu juste, on a soufflé sous les bras et on est reparti.
Mais ça a déjà été là, ça qu'il faut
rappeler. Et dans les commentaires de haine, vous avez donc aussi des femmes.
Oui, oui.
Ah bon?
Oui, le truc, c'est que souvent, on pense que quand on parle de féministes et toutes les femmes sont féministes.
Non.
On s'attaque. Le féminisme, on va dire, l'ennemi numéro un du féminisme, c'est le patriarcat. Mmh. Le patriarcat, c'est un système de pensée. C'est comment est-ce qu'on pense? Mmh. Un système de pensée qui dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, quand une femme pense qu'elle est supérieure à une autre parce qu'elle a accouché par voie basse et qu'une autre a accouché par césarienne, il y a un problème.
Quoi? Il y, y a des niveaux de...
Ah bah oui, on dit que tu n'es pas une vraie femme, tu n'as pas senti la douleur de l'accouchement, donc tu n'es pas une vraie femme. Il y a des comparaisons comme ça. Quand une femme peut-être qui divorce, après des violences part, on dit bah normalement tu devais prier, jeûner, tu devais rester supporter, tu n'es pas une vraie femme. Et c'est un peu comme est-ce qu'on pense. Donc oui, il y a des femmes qui sont des suppôts du patriarcat. Des femmes qui excisent.
Les suppôts du patriarcat,
c'est comme ça qu'on les appelle. Des femmes qui excisent, des femmes violentes, des femmes. En fait, ça existe, en fait. Donc, moi, quand je suis dans ma. On va dire dans mon travail de défense, quand tu es devant moi, que tu es un homme ou une femme, que je dois rouler, je te roule et puis j'avance, quoi. Parce que c'est le patriarcat que je roule.
C'est pas intéressant. Donc, du coup, ouais, ce que tu décris, comme disait Caillé, c'est qu'en fait, la haine peut venir de tous les côtés. C'est pas quelque chose qui est lié. En fait, vous vous battez contre un courant de pensée dominant.
Exactement, un courant
donc,
de pensée dominant.
En fait, quels que soient les gens, par défaut, ils vont probablement penser ça.
Exactement. C'est un courant de pensée aussi, comme j'ai dit, qui est régi par les rapports de pouvoir. Souvent, on dit, on trouve une société où les femmes pensent comme ça. C'est parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. C'est parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Et on regarde. Tous les espaces ou tous les niveaux où on prend les décisions aujourd'hui sont tenus par des hommes. Ça, c'est la vérité. Donc, quand tu prends une décision qui est là, un mensonge qui est là depuis des années, devient une vérité. Ça devient une vérité.
À force, oui. Parce que tout le monde connaît.
À force, ils croient. Effectivement, ça devient une vérité. Donc, souvent, j'en veux pas trop aux femmes parce que je me dis peut-être qu'elles sont victimes du système, mais je n'hésite pas à sortir le point, en fait, s'il le faut, pour défendre mon courant de pensée. Mais le jour où ces femmes-là viennent vers moi pour me dire j'ai besoin de ton aide, je vais pas les rejeter. Et c'est arrivé.
Oui. Aïe. Donc, tu as eu des femmes,
des
suppôts du patriarcat.
Qui nous ont pilés sur Internet, qui sont revenus après pour me dire. Et on a aidé, en fait. Et aujourd'hui, sont elles qui sont, on va dire, qui parlent de la Ligue partout.
Ah bon?
Ah bah oui, ça ne me gêne pas, en fait, de revenir.
Non, mais c'est bien, je veux dire, mais du coup, c'est tout à votre honneur, parce que du coup, vous avez vu, vous-même, les gens qui vous oppressent, en fait, à un moment, qui participent à votre oppression, en tout cas, qui empêchent votre combat, à un moment, bénéficient du combat.
Oui, moi, ça ne me gêne pas, parce que je me dis, souvent, on peut être suppôt du patriarcat par ignorance. Par ignorance, parce qu'on ne sait pas des choses. Et moi, je peux pardonner, mais il y a des personnes qui vont menacer mon intégrité physique. Là, c'est chaud, quoi.
Mais du coup, dans les menaces, tout ça, la police ne peut pas intervenir sur ces choses-là
Ça dépend. Si, il y a des menaces qui viennent sans nom, on ne te cite pas vraiment. Même pour porter plainte à la PLCC, qui est la police de la lutte contre la cybercriminalité, il faut avoir certains... critères, en fait. Donc, il y a des collègues, des collaboratrices qui portent plainte pour ça. Il y a des messages anonymes qui arrivent aussi. Il y a une de mes amies qui est Bintou qui a reçu « on va te violer », des trucs comme ça. Parce qu'elle a fait juste un hashtag « vraie femme africaine » qui était devenu un peu...
Ouais, on l'a vu, il était très bien celui-là. Ouais. On aime beaucoup.
C'était parfait. Elle a reçu beaucoup de menaces de mort, juste de l'ironie.
Ça me choque parce que, en fait, je sais pas, quelle est la logique de dire « je vais te violer ». En fait, c'est...
Non, mais Internet, tu sais, enfin, c'est... Comment dire
Il a dépassé.
En plus, pour que vous sachiez, on tourne cet épisode le jour où il y a la fameuse coupure.
Coupure d'Internet, exactement.
Coupure d'Internet. Non, mais Internet, tu vois, c'est vraiment, en fait, un endroit où les gens vont avoir tendance à dévoiler leur vrai visage, mais sous couvert d'anonymat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment, en fait, ce qu'ils ressentent, c'est un ramassis de haine.
C'est
après, il y a aussi un autre truc, c'est que les gens négatifs commentent plus que les gens positifs.
Clairement.
Donc, tu vas le voir, tu vas le voir. Mais ça peut être très choquant. C'est pour ça que je demandais comment est-ce que vous l'avez vécu dès le départ. Et j'avais aussi une question. Souvent, les gens qui travaillent, que ce soit dans les ONG, dans la société, ils ont... Il y a ce combat, en fait, intérieur, où à un moment donné, ils se disent toujours à quoi bon, dans le sens où ils se disent, j'ai aidé 10 personnes, j'ai aidé 20 personnes, j'ai aidé... mais il y a 1 million de cas, il y a des millions de cas dans le monde. Comment est-ce que tu arrives finalement, vous arrivez ensemble à réfléchir là-dessus, tu vois, à avoir cette satisfaction?
On appelle ça un burn-out militant.
Un burn-out militant.
D'accord.
C'est une période où tu n'en peux plus. Où tu te dis, je me bats pour rien, quoi. Et moi, j'ai eu plein...
Parce que, Mouraïla a dit, c'est un sacrifice. Mais oui, c'est
continuel.
Continuel. Quand peut-être tu t'es battu, t'arrives, il y a une petite fille de 2 ans qui est violée, tu te demandes, bon...
Une fille de 2 ans Dahila.
Des femmes qui sont découpées ou bien qui sont poignardées parce que le repas n'est pas prêt à midi. Ça existe. Et après, je te demande... Souvent, quand je pleure, souvent, dans mon burn-out, je demande à Dieu, si on a pris ton crédit, il faut nous dire, on va rembourser en tant que femme. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être autant victime de ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'à nos débuts, on a vécu mal le harcèlement parce qu'on n'avait pas les mécanismes. Ouais. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue, on a des psychologues qui nous accompagnent, nous.
Ah, qui vous accompagnent, vous.
Non, militantes. Et il y a des psychologues qui accompagnent les survivantes. C'est différent. Souvent, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé la différence entre victime et survivante. Souvent, on emploie survivante, on nous demande pourquoi. Une victime peut être quelqu'un qui a été violé, battu, c'est une victime. Peut être aussi quelqu'un qui a été tué, c'est une victime. Mmh. On emploie le mot survivante, surtout chez les féministes, pour donner aussi la notion de pouvoir. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose, tu reprends ta vie en main, tu combats. En fait, c'est pour donner de la force, en fait.
C'est un badge qui vaut quelque chose.
Exactement. Je suis survivante, j'ai vécu quelque chose, je ne suis pas morte, je continue. Et c'est le mot, en fait. Et nous, à la Ligue, on a compris qu'il fallait souvent couper. On prend des vacances. C'est pourquoi je ne m'ai pas eu sur le podcast depuis longtemps, parce que c'était mes vacances de burn-out.
Ah oui, c'est bien. Tu vois, on dirait l'entrepreneur, tu vois, c'est le même truc. Genre, on vous impose des vacances, du coup.
Moi, j'ai imposé à mon équipe. Je leur ai dit, ça va, quoi. Quand tu es fatigué, tu pars. On a un système de travail au bureau aujourd'hui où on n'a pas d'heure, quoi. On vient ici, on est venu à 10 heures, qu'on a travaillé sur le cas, parce qu'on a beaucoup de charges mentales. C'est vrai que je suis présidente, je gère beaucoup de trucs administratifs, mais aussi il y a le côté mental. Donc, j'impose des vacances. On se repose, t'as mal à la tête, tu rentres chez toi parce que je me dis, je préfère avoir quelqu'un qui est là, qui peut aider une survivante. Parce que quand une survivante t'appelle, tu dis allô, la manière de dire ton allô, ça peut soit l'aider à s'ouvrir, ou elle va couper, elle va plus revenir. Parce que imagine, t'es pas bien et t'es énervé. Allô, c'est qui même?
Ouais, si elle sent que t'es exaspéré.
Quelqu'un
elle
qui est
sent
violée.
La fatigue, ouais.
Mais il y a des personnes, il y a une de mes collaboratrices qui a une voix tellement douce. Et elle s'appelle Andrea. Qu'elle appelle, je lui dis, toi, une survivante peut t'écouter, sera guérie. Elle fait, allô, ça va? C'est une voix qui rassure. Donc, j'oblige mes collaboratrices à prendre des congés, à voir des psychologues. Et avec les financements qu'on a, on peut subventionner ces soins avec les psychologues. Aller faire des massages. Moi, j'offre des massages à mes collaboratrices quand je peux. Et je n'avais pas découvert ça. Depuis que je suis militante, je m'offre ces plaisirs-là. Je pars en vacances. Quand il le faut, parce que c'est important pour moi. Je ne peux rien donner si je suis vide, en fait. Et c'est important.
Tu as parlé de bureau, de financement. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup?
Ah ouais, là, ça ressemble pas à l'entrepreneuriat, là.
Oui, voilà. Tu vois, non, je t'avais dit, c'est comme nous. En fait, ce que tu décris, là, c'est tu as parlé de santé mentale. Comme
comment c'est structuré?
On fait des levées de fonds aussi.
Ah bon?
Ah oui.
Ça parle de nous, mais c'est ça qui intéresse.
On va dire que le fait d'être partie aux États-Unis, j'ai eu... On va de l'expérience sur la question de l'accompagnement des associations et ONG. Et ce qui se passe au niveau de la Ligue, on est une association, on est régie. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est un statut d'ONG qu'on a.
D'accord.
Un statut d'ONG.
D'accord, c'est différent, une ONG et une association.
Oui, mais il n'y a pas de statut d'association à part. C'est le statut d'ONG, mais tu peux t'appeler association. Hein.
D'accord.
Ça dépend de toi.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
En fait. Organisation non gouvernementale.
Oui, non gouvernementale. On a un bureau. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a commencé à se mettre ensemble pour faire des demandes de financement. Et c'est là que tout le côté entrepreneur sort, parce qu'il faut faire des proposals, il faut faire des dossiers.
Des dossiers, ouais.
Qu'il faut monter, faire des budgets, faire un rapport financier quand ça vient. Donc, nous, on peut se promener sur Internet comme ça, voir que, je ne sais pas, l'ambassade de France lance quelque chose. On va sur le portail, on postule.
D'accord.
Et c'est ça, en fait, on postule, on fonctionne par financement. C'est-à-dire, ce sont des projets soit de 3 mois, 6 mois, 1 an. mais on n'a pas vraiment des financements qui disent bah, pendant 5 ans, bah, on vous donne telle somme.
Ouais. Sur des projets spécifiques.
Spécifiques.
Tu peux donner un exemple ?
Actuellement, on travaille sur un projet avec l'appui de Equipe Hop sur les fonds Youlette qui permettent de soutenir deux coopératives de femmes. Mmh. On travaille sur la question de la violence économique dans des villages à Vavoua, c'est-à-dire dans le sud-ouest, à Déragon, un petit village, et à Boisso. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille comme une entreprise, quoi. Il y a des RH, mais des RH qui sont payés sur fonds de consultantes parce qu'on n'a pas beaucoup de fonds pour prendre des gens en CDI, c'est pas possible. Moi, j'ai dû démissionner parce que j'arrivais pas à faire les deux, à être. J'étais responsable de la communication d'une ONG à Dakar et tout. Je pouvais pas, j'ai démissionné.
Tu as démissionné de.
De mon job à Dakar, pour être juste sur la ligue, pour pouvoir faire de la recherche de financement.
Donc, du coup, tu es à plein temps.
Je suis à plein temps, on va dire. Parce que.
En fait, c'est ça, et c'est un point qui était important pour nous, parce que c'est un peu comme l'entrepreneuriat, ce que tu décris, dans le sens où, tu as le début où tu es appelé par l'action, tu veux changer les choses. Tu commences à faire, mais à un moment,
tu
peux pas continuer à faire les deux. Donc, toi, comment tu as fait ce choix de te mettre à plein temps et à quel moment tu dirais il faut se mettre à plein temps sur une activité comme ça d'activiste?
Parce qu'on avait tellement de cas. Tellement.
Ah, c'est un peu comme nous quand on dit la demande te pousse.
C'est la demande. Parce que au début, mes collaboratrices me tiraient un peu les oreilles parce que je faisais rentrer mon salaire dans les cas pour payer les médicaments des survivantes, pour payer les certificats médicaux. C'était trop. Et je me suis dit, où est-ce qu'il faut chercher l'argent pour accompagner ces femmes-là? Donc, on a commencé à avoir des bailleurs comme... j'appelle plus bailleurs, j'appelle partenaires. Pourquoi? Parce que le terme bailleur, c'est comme si on te donne l'argent, tu fais ce qu'on veut. Là, on travaille sur des partenariats. Tu apportes quelque chose, j'apporte quelque chose sur la table. Tu n'es pas mon supérieur, tu ne me donnes pas des ordres. On collabore et c'est le partenariat. Donc, on cherche des financements. On a des financements. Aujourd'hui, on avait commencé au début avec peut-être 2 consultances qu'on avait au niveau de la Ligue. Maintenant, j'ai une équipe de 5 personnes qui travaillent sur des projets spécifiques, qui sont rémunérées en fonction des projets, c'est-à-dire qui sont là, qui viennent le matin au travail. Des étudiantes même qui ont eu un master, qui sont à la Ligue maintenant aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction. Quand on puisse, c'est vrai qu'on est activiste, mais aussi, arrivé un moment, il faut qu'on puisse vivre, qu'on puisse travailler, quoi.
Donc, c'est votre travail. C'est ce que les gens... Parce qu'à un moment, c'est du bénévolat et ça devient votre travail. Et c'est moi, je sais que c'est une distinction que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, parce que je sais que nous, c'est ce qui, dans notre association à l'époque, quand j'étais au Mali, a vraiment divisé en deux les gens. Parce qu'en fait, à un moment, tu es dans la situation où, pour faire l'action que tu veux faire, tu ne peux pas juste le faire à côté de ton boulot, tu ne peux pas juste le faire de temps en temps.
Non.
Il faut que tu le fasses plus. Et donc, du coup, ce choix, toi, de te dire, OK, je vais faire ça comme travail, je vais être mon boulot à plein temps d'être militante. À quel moment tu l'as fait et comment tu as pu t'organiser? Parce que c'est d'être, même économiquement, c'est risqué.
C'est risqué, c'est le choix le plus risqué de ma vie.
Ah ouais?
Le choix le plus risqué de ma vie. Ouais. Mais je l'ai fait parce que mon conjoint, il était là. Et il m'a dit, tu peux lâcher tout, je tiens, quoi. Et c'est ce qui compte souvent en tant qu'activiste, d'avoir pas seulement le conjoint, mais une famille qui te soutient. Parce que souvent, quand on est insulté, il y a nos parents qui voient, qu'on est insulté sur Internet et tout.
Oui, ils voient les problèmes.
Les parents voient, la famille voit, ça fait mal.
Ouais.
Mais de savoir que la famille te soutient, ça a été, c'est important pour moi. Mais il y a eu aussi le côté où j'ai fait un burn-out. C'était ça, le burn-out, parce que quand tu es présidente, tu ne gères pas que l'humain. Tu gères le côté financier, tu dois faire les partenariats, tu dois faire la communication. Comme je suis dans la communication, la communication de la Ligue, je ne la lâche pas en fait. Je suis là, je travaille
dessus. Tu regardes de jour en jour.
Et ça fait que c'est lourd. Parce que j'avais un peu le même poste au niveau de mon entreprise, Speak Up Africa, j'étais chargée de la communication stratégique. C'était les mêmes choses. Et il y a eu un moment où ça n'allait plus.
Ouais, tu n'arrives à faire aucun des deux correctement. Comme
aucun des deux correctement. Je me suis dit, il faut lâcher. Et puis la Ligue, c'est toute ma vie, quoi. C'est toute ma vie, parce que chaque jour que je me lève, je pense au message que je reçois après que les femmes soient sauvées. Et ça change ma vie. Le 8 mars, elles nous ont envoyé des messages, on a pleuré. Elles nous ont dit merci. Et moi, quand une survivante me dit merci, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, quoi. J'ai juste écouté, j'ai apporté. Et ça, je me suis dit, il fallait que je me mette à temps plein pour chercher encore plus de financement, parce que plus t'es connu, plus les survivantes viennent vers toi. C'est ça le truc aussi.
Donc ça augmente la demande.
Ça augmente la demande, et toi aussi, il faut que tu sois formé pour ça.
Ouais.
Pour accompagner.
Et tu es la seule en full-time
Non, finalement, on a un peu lâché le boulot. On est Enfin, un peu. Mmh. Parce que, par exemple, moi, je fais toujours des consultances pour d'autres ouais. organisations. Mmh. J'ai ma collaboratrice qui est la première femme qui enseigne le féminisme à l'université. Déjà, des Néo. Mmh.
Mmh. À quelle université ici?
IUA.
À IUA, ok.
Et j'ai une autre qui est agronome et écoféministe, qui fait tout ce qui est consultance et tout. Mmh. Donc, pour les coopératives, par exemple, des femmes, c'est ouais. notre ressource humaine, en fait.
D'accord.
Vous voyez, donc dans chaque département de la Ligue, on a des personnes qui sont formées pour. On n'est pas que des activistes comme ça, quoi.
Ouais.
On a une formation, on a des diplômes, donc souvent on nous dit « Ah, mais la Ligue… » Non, ce sont des personnes qui sont formées, qui savent ce qu'elles font, en fait. C'est toute une réflexion derrière. Écrire un projet, viser des bailleurs, on a eu des financements de Equipe Hop, ambassade de France, du Canada, Allemagne. Il faut avoir de la tête pour le faire, quoi. C'est dur, quoi.
Ouais, non, c'est magnifique, franchement.
C'est pas ça. Enfin, trouver des financements, c'est ce que c'est. Ouais, c'est pas ça. Et c'est un truc que tu as également vu quand tu étais aux États-Unis ou tu as appris sur le tas.
Comment non, j'ai appris. Aux États-Unis, j'ai vu un peu, mais j'ai appris sur le tas. Mmh. Et on va dire que c'est à ses fils que j'ai tout appris. Ah oui, j'ai appris sur le tas et au fil du temps, j'ai commencé à me perfectionner en fundraising des associations.
D'accord.
En fonction des bailleurs, je sais comment écrire. En oui. fonction, je connais les priorités, je sais comment faire le budget. Le budget du Canada va différer du budget de la France et de tel type et tout. Aujourd'hui, je sais faire un rapport financier. Parce qu'en tant que présidente, tu es obligée. Tu dois ranger les pièces, faire les trucs comptables. Je sais parler ce langage aujourd'hui parce que c'est devenu un peu comme mon métier, en fait.
C'est ton métier, effectivement.
On parle souvent, effectivement, d'intensité. On ressent l'intensité. C'est-à-dire, quand tu veux quelque chose, tu vas trouver, en fait, comment ça fonctionne. Et je pense que beaucoup de gens, effectivement, sont pleins d'attention, ont des causes qui leur pèsent, participent à des associations, mais... je pense qu'il y a un grand gap, effectivement, entre même créer, participer à une association et aller chercher des fonds pour cette association.
Ouais.
Parce que c'est un vrai boulot. Et la plupart des gens n'associent pas association à boulot.
Non.
C'est ça. Ils pensent que c'est un hobby. Nous, on laisse nos familles. Ouais. On voyage. On va dans des endroits comme Déragon, qui est un petit village loin au fond. On va à Korogo. En fait, quand tu reviens, par exemple, tu peux faire une semaine sans voir ta famille, quoi.
Bien sûr.
C'est un sacrifice qu'on fait. Et mais derrière, quand tu regardes le travail, tu regardes ces femmes qui t'envoient des photos des plants de maïs qui ont poussé, tu te dis, it makes sense. Franchement, t'es contente. T'es contente. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas, c'est comment est-ce que la société ivoirienne a changé un peu. C'est vrai que on ne va pas cracher dans la soupe quand même. Mais il y a des choses qui sont
améliorées.
Qui sont améliorées. Avant, il y avait cette culture du viol, là. Comment est-ce qu'on se moquait? On parlait du viol, des violences, ça a changé. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait une blague sexiste, c'est ce que les gens mettent en commentaire, elles vont venir te trouver. La ligue va venir te trouver ici. Parce que on est un peu comme des policières, quoi. Au début, on a dit, ça passe pas. Quand il y a eu un scandale sur une chaîne de télévision, je vais pas dire le nom.
D'accord.
Je vais expliquer un peu.
C'est quoi? Parce que je ne sais pas.
Sur une chaîne de télévision, je ne sais pas si Kaïd t'a vu.
Si,
ils ont invité un, j'aime pas dire le côté, ancien violeur, mais voilà, qui est sorti de prison, qui a reproduit sur un mannequin.
Ah oui, putain, j'ai vu ce truc. Oh non, mais c'était abusif. Oh, Seigneur. Ah oui, je me souviens de cette
histoire. Et là, on a eu un sit-in devant cette chaîne de télévision.
Ah, c'est assis devant, bien.
Ah bah oui, on a fait un sit-in, il y avait toutes les chaînes. On est passé même en Chine, au Japon, en fait. Chaque matin, je me réveillais, je faisais la revue. Je regardais Indonésie, Good, France, Good, BBC. On est passé sur le New York Times, s'il vous plaît.
Pour dire que...
Washington Post. En fait, tout ça a été tellement relayé parce que c'était la première fois que des féministes, on n'était pas que la Ligue, plein de féministes ivoiriennes venaient faire une sit-in. On a eu des cargos de police qui sont venus, qui ne nous ont pas touchés, à cause des caméras sûrement.
Ah, ils sont venus, mais ils n'ont pas touché.
Oui, parce qu'il y avait des caméras. Mais ça montre un peu que, de 2020 aujourd'hui, des gens font attention à ce qu'ils disent.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils font un peu attention à ce qu'ils disent. Ouais. Ah, faut pas, je vais dire ça. Les féministes vont me trouver. Donc, tu sais que ce que tu dis est problématique.
Au moins, c'est déjà un progrès.
C'est un progrès. C'est un progrès et la libération de la parole des femmes.
Aussi.
Et ça, c'est important. Internet est un lieu où on peut s'exprimer. Et le harcèlement en ligne, c'est pour venir aussi pour réduire la place des femmes aussi sur Internet. Aussi.
Ouais, c'est pour leur faire peur.
C'est pour faire peur. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent appeler la Ligue ou faire même un poste pour dire « Aidez-moi, j'ai besoin, je sais pas, de quelqu'un pour m'aider. » Avant, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, tu peux dire « J'ai été violée » et tu n'as plus honte comme avant. Avant, quand tu étais violée, je n'ai pas dit que c'est fini.
Ouais.
mais on te demande, t'avais porté quoi?
T'as fait quoi?
T'as fait quoi? Aujourd'hui, une femme peut dire, oui, j'avais porté une jolie bumini, et quoi? C'est pas une autorisation au viol, en fait. Et ça, c'est important pour moi, parce que dans le discours, ça a changé un peu. Même les mères célibataires, comment est-ce qu'on parle des mères célibataires sur Internet?
Ah bon? On sait pas, je sais pas.
Ah, c'est...
Ah bon?
Oui, les mères célibataires, c'est elles qui produisent des microbes, des choses comme ça, en fait.
Ah,
Et ces femmes-là, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes sur les gardes d'enfants, elles ne connaissent pas vraiment leurs droits. Et nous, on fait des cabinets pour les mères célibataires où on a des juristes qui viennent leur expliquer, cas par cas, ce qu'il faut faire.
Ce qu'elles ont comme droit.
Donc, le langage commence à changer. Et ça, pour ça, moi, je suis contente, en fait. Aujourd'hui, je préfère être crainte, c'est-à-dire que qu'on dise, on a peur que la Ligue arrive, qu'on fasse des bêtises, en fait. Donc, comment est-ce qu'on parle sur les cas de violence? C'est pas grave. Ayez peur, c'est pas grave.
Tant qu'il caricature, si ça fait bouger les choses.
Exactement.
Mais comme on dit, en plus, la parole est créatrice. Si les gens commencent à avoir peur de dire des choses, ils vont commencer à avoir peur de les faire.
C'est qu'ils savent que c'est problématique. Quand
en fait,
tu dis un truc et tu dis, faut pas avoir envie de me trouver ici. Ça veut dire que tu sais que ce que tu as dit, ça peut susciter une réaction. Donc, tu es conscient que c'est pas normal, mais tu le fais quand même.
Ah ouais. Non, c'est ce qu'il faut, hein. Franchement, en vrai.
Après, tu sais, moi, ma crainte souvent, que ça soit sur cette cause-là ou même sur le racisme, c'est le double discours des personnes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur maintenant, effectivement, de dire certaines choses en public. Mais en privé, moi, je me pose toujours la question de ce qu'ils disent devant leurs enfants. Parce que finalement, c'est là que ça se passe. C'est
le privé est politique.
Comment est-ce que tu enseignes en fait certaines choses à tes enfants, même quand tu leur enseignes pas, ils voient, ils écoutent. Donc comment est-ce que finalement tu arrives à mesurer, enfin si c'est possible, que l'impact est un impact, tu vois, qui va être durable.
En fait, on a compris ça et on a commencé à travailler avec les enfants dans les écoles. On a une bibliothèque à Bobo derrière. Une bibliothèque féministe dans laquelle on fait des petits ateliers avec des livres comme le livre de Chimamanda, Nous sommes tous féministes, mais avec des bandes dessinées pour apprendre aux enfants ce que c'est que l'égalité des droits, le consentement surtout. Et en décembre dernier, on a eu un concours sur le consentement, un concours de lecture. On fait ça. On va dans des écoles aussi à Fresco, par exemple. On ne fait pas que l'accompagnement. On s'est rendu compte qu'il faut changer tout de la base.
La prévention.
Donc, si les parents... avec les sensibilisations, ne comprennent pas. À l'école, les enfants vont comprendre. Et dans les livres aussi, on permet aussi aux petites filles de rêver. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les villages où on part, elles ne rêvent pas. Elles voient des métiers, je ne sais pas, institutrices, et c'est tout, quoi.
Oui.
Et le livre, ça permet de voir des femmes présidentes et tout, et elles se rendent compte qu'il y a un problème d'égalité. Donc, on a travaillé sur cette question-là. Et j'étais avec ma collaboratrice il y a une semaine, on a fait le récap des cas qu'on a reçus au niveau de la Ligue. Les cas ont diminué chez nous.
Les cas ont diminué?
Oui. Ça veut dire deux choses. Soit il y a du changement, soit on fait tellement, peut-être un bon travail que les femmes même connaissent maintenant leur processus droit. Pour aller dénoncer.
Elles-mêmes.
Et ça, c'est très cool en fait de savoir que de 253 cas, on est passé à 122.
Waouh! Super. C'est terrible. Ouais. Vous, votre job, c'est que vous n'avez plus de job.
Oui.
Idéalement. Dans un monde idéal, tout le monde est féministe et vous êtes juste normal. Vous n'avez plus à. Vous êtes juste là, oui.
Je ne crois pas que ça puisse arriver parce que avec la pandémie du Covid, tout a changé.
C'est ce que j'ai dit,
ah bon?
En 2020,
vous avez, je ne sais pas, vous avez remarqué la courbe des violences a augmenté en 2020.
Ah bon?
Parce que il y avait le lockdown, confinement, en fait. Le confinement.
Ouais, le fait de rester l'un sur l'autre, les gens.
Vous savez que la majorité des cas sont se passent dans le cercle familial. Il y a ce petit truc où on dit il y a le viol idéal où tu passes dans un petit
truc sombre,
point sombre, on te saute dessus, ça arrive, mais la majorité, c'est quelqu'un qu'on connaît. Mari, le petit ami, le tonton, le papa, le boutiquier du quartier, c'est là-bas que ça se passe. Et en 2020, avec le lockdown, les petites filles qui restent à la maison, le mari qui reste à la maison et qui est énervé, s'il est énervé, il se défoule, il y a eu des cas et des féminicides. Des féminicides, ce sont des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Et ça, comme j'ai dit, le repas, il n'est pas prêt à midi, il est poignardé. Elle est énervée, il la tape, elle tombe. Il y en a un à Bobo qui a découpé sa femme. C'est passé sur les réseaux, c'était horrible. Et à cause du confinement, il y a eu beaucoup de cas comme ça.
Non, et c'est terrible parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que, et on va revenir un peu à ce que tu disais sur l'entourage, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le plus dur, c'est pas seulement les cas isolés, comme tu dis. Ce n'est pas des étrangers. C'est ce qui se passe quand les gens à l'intérieur d'une famille ne se protègent pas ou en tout cas considèrent ces choses-là comme étant normales.
C'est ça, il y a une omerta, en fait. Moi, c'est mon oncle qui m'a violée.
Seigneur.
J'avais 5 ans et j'ai les souvenirs. Vous savez que le cerveau humain, il est très
T'avais
fort.
T'avais 5 ans
hein. 5 ans. Il ouvre une petite place, là, un placard, il te met le trauma, il le ferme. Et le jour où il y a un déclencheur, il fait tout ressortir. Et moi, pourquoi je n'ai pas parlé? Parce que j'avais peur.
Mais parce que, en plus, les gens vont dire que ce n'est pas vrai. Parce que 5 ans, ils vont dire
c'est pas vrai. Et le truc, c'est que moi, j'ai eu des séquelles gynécologiques. Donc, voilà, je sais ce qui s'est passé. Et j'ai confronté mon agresseur.
Waouh.
Ah ouais, oui. Je lui ai écrit, je lui ai dit, tu penses que j'avais 5 ans? J'ai toute l'image dans ma tête de petit enfant. Je lui ai dit, je suis descendue, il y a maman qui pilait du foutou, elle m'a donné une banane. Il se demandait, mais comment elle a fait pour avoir tous les détails? C'est juste parce que mon cerveau, il avait gardé. Et les petites filles, là, elles parlent pas parce que souvent la maman, tu voyais un enfant peut-être qui est très, très, qui a de l'énergie, et il y a un tonton spécial qui arrive à la maison, et quand il arrive,
elle a peur,
elle est toute gênée. On dit, va faire un câlin à tonton. Non. Ou bien quand il arrive, elle se cache. Ne forcez pas la petite. Arrivez, le papa, il s'en va. Demandez-lui les choses. Mmh. Parce que s'il y avait une certaine confiance entre les parents, les enfants, posez les questions à vos enfants.
Oui.
Ce qu'ils vont vous dire, on travaille avec des petites filles à Bassam et tout, ce qu'elles nous disent, c'est terrible en fait. C'est nous qui sommes les premiers défenseurs de nos enfants. Mais si nous-mêmes, on ne leur donne pas cette confiance-là, dès que je nous dis quelque chose, ah, tu parles trop. Attends, on te connaissait comme ça, tu as sûrement provoqué le tonton, c'est pourquoi il a mis sa main sur ta jupe. Mais
comment il peut provoquer son tonton alors qu'il a...
Mais vous connaissez comment est-ce qu'on pense?
Ouais.
C'est ça en fait, comme je dis, c'est encore des rapports de pouvoir. Le viol, c'est pas seulement du désir, du plaisir. Je dis du désir, du plaisir.
Non.
C'est une affaire de je contrôle ton corps, c'est pourquoi je le fais. J'ai le pouvoir sur toi, c'est pourquoi je te viole. Sinon, franchement, quelqu'un qui vient, qui viole un enfant de 2 ans...
Oui. C'est des fois pas des pédophiles, c'est ça qu'il faut comprendre.
Non, il y a un problème, voilà. On a fait une formation, on dit plus pédophile, on dit pédocriminel, il faut dire les termes. Un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Un pédocriminel, c'est quelqu'un qui agresse les enfants, qui viole des enfants.
Ouais.
Non, même dans le langage qu'on dit, les pédophiles, c'est trop joli pour eux.
Non, c'est des pédocriminels.
C'est le mot. Il faut donner, comme tu as dit, le mot, il crée, il faut dire les choses. Et ça, c'est compliqué de dire aux parents d'ouvrir le truc de le lien sale, se lave en famille. Ce sont des vies détruites. Ma vie a failli être détruite, franchement.
C'est...
J'ai pris des décisions que je n'ai jamais prises si je n'avais pas été violée. Parce que ça fait que tu perds confiance en toi. Tu es attiré vers des gens qui vont te détruire. Et c'est arrivé, je me suis mariée dans un foyer violent parce que je n'avais pas confiance en moi. Je me disais, de toute façon, on parle de virginité. Toi, tu n'es pas vierge, donc tu es n'importe quoi. En fait, c'est comment la société parle, en fait.
Tu es doublement victime.
En fait, le chien, il est sur toi. La honte, c'est toi la victime. Le violeur, il peut te violer et puis peut s'arrêter au carrefour avec ses amis, se moquer de toi. Et des gens ne vont pas te défendre. Ils vont dire, tu es allé faire quoi là-bas? Pourquoi il t'a appelé? Même s'il arrive devant ta chambre, je peux dire non et puis me rétracter. Il y a même un truc, on dit le thé chaud. Si tu prépares le thé, y a des tasses là, tu me dis, je veux boire du thé. Je te dis, je veux boire du thé par exemple. Tu chauffes l'eau, tu arrives. Du moment où tu chauffes de l'eau, tu prends la tasse que tu reviens, je peux changer d'avis, non? Est-ce que tu prends le thé chaud, tu me mets dans la gorge pour que je boive?
De force.
Non, ouais. C'est la même chose avec le consentement, en fait. Il n'y a rien qui est plus bien que d'avoir un consentement où c'est libre, c'est éclairé. Et puis, tu sais ce que ça veut dire. Je peux être d'accord pour boire du thé, mais pas du thé avec du sucre.
Ouais.
Donc, ça veut dire que si on a commencé, je suis d'accord pour ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Et cette notion de consentement, les parents ne l'expliquent pas à leurs enfants. Un enfant, tu lui dis, salut tonton Joe, il est un peu... Va saluer tonton Joe.
Ouais, fais ce qu'il faut, ouais. Genre, il te force.
Exactement.
Du coup, tu te rends compte, tu te dis que tu n'as pas le droit de dire non.
Et quand tonton Joe, le jour, il dit, viens, je soulève ta jupe, maman a toujours dit de...
De faire ce qu'il dit. Et j'avoue, là, ce que tu décris, oui, tu as l'éducation, et moi, je peux décrire des cas plus graves, et c'est vrai que je n'en ai jamais particulièrement parlé, mais ceux qui me connaissent du Mali sont au courant, ou en tout cas, sans doute. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai vu le pire cas qui enfin, encore plus grave, moi, à mon sens, parce que c'était, du coup, quelqu'un qui... Enfin, ma cousine est morte sous les coups de son mari, poignardée de 17 coups de couteau, alors que son enfant était dans la chambre, son bébé.
La chambre, je...
Voilà, donc tu vois, c'est... et ce que j'explique aux gens souvent, c'est que comme c'est ma cousine et que c'était comme ma grande sœur, ce que moi, qui m'a fait le plus mal, au-delà de la violence du sujet, c'est ce qui s'est passé avant et après dans notre famille. Parce qu'en fait, ce que les gens oublient, c'est en fait, et c'est pour ça que j'apprécie que tu puisses en parler, c'est que les gens ne se rendent pas compte que être féministe, c'est pas quelque chose que tu fais parce que tu penses que les femmes n'ont pas assez d'argent. Tu le fais parce qu'il y a des femmes que t'aimes. Aussi simplement que ça. Tu veux juste, tu te dis à un moment, s'il y a des femmes que tu respectes et que t'aimes, tu vois à quel point il peut leur arriver des choses terribles si tu ne changes pas le monde dans lequel elles vivent. Parce que le monde leur veut vraiment du mal. Et elle, dans son cas, c'était terrible parce que l'homme avec qui elle était mariée, elle voulait le quitter. Elle a quitté, elle est retournée chez ses parents. Mais comme souvent...
Les gens disent, faut retourner.
Comme elle dit, faut supporter. Et il l'a envoyé aller supporter avec un gars qui était alcoolique, drogué. Et le pire, c'est, attention, c'est qu'il a fait ça, il n'était pas dans un appartement tout seul. Il l'a poignardé, donc ma cousine s'appelle Mariam Diallo. Si vous tapez Mariam Diallo sur Google ou sur Facebook, vous verrez. En fait, c'était dans la maison familiale, dans la chambre. Il a poignardé au milieu de la nuit et les gens de la famille du gars n'ont pas ouvert. Ils ne sont pas intervenus. Donc, elle n'est pas morte sur les coups de couteau. Elle est morte en se vidant de son sang. Donc, tu te rends compte qu'eux, à 7h du matin, ils ont appelé son frère qui était ailleurs pour lui dire « Ah, nous, on a entendu des bruits dans la chambre. Tu devrais peut-être venir voir si ta sœur est OK. » Ta sœur, alors que c'est la femme que vous amenez dans votre famille, qui vit avec vous, qui devrait être maintenant comme votre fille. Et tu te rends compte qu'après qu'il l'ait tuée, après que mon cousin soit venu l'ait ouvert et découvert, bon, au-delà de toute la violence que lui, il a eue pour ce gars-là, sa sœur était morte, ils ont quand même eu le courage de venir demander pardon. De demander qu'on ne le mette pas en prison. Et l'argument était, ben, c'est le père de votre neveu.
Il oubliait ça quand il poignardait la maman. C'était pas le
père de votre neveu. Tout le monde oublie ça. Et il faut que vous sachiez, et ce qui est encore plus grave, et ce que moi je dis souvent, qui est quand même moi ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait des gens autres dans notre famille qui étaient d'accord pour pardonner. Qui étaient en mode, non, on est des bons musulmans, on fait pas ça. On pardonne. Je dis, mais vous allez pardonner quoi? Et ce que tu décris, Nagan, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait la Ligue, c'est que à la fin de l'histoire, ça a juste été son frère, seul, qui est allé jusqu'à... Parce que quand le gars est allé en prison, parce que bah, quand même, on a trouvé un corps, il avait le couteau et le sang sur lui, donc c'était simple, les policiers étaient prêts à le libérer parce que la famille était prête à payer les policiers pour sortir. Donc il fallait que quelqu'un paye les policiers, il fallait que quelqu'un paye un avocat. Et je me souviens, mon cousin, et c'était triste parce que je n'étais pas dans le pays, je n'étais même pas au Mali. Mais je suis le seul qui lui ai dit, OK... Qu'est-ce qu'il te faut? Il m'a dit rien. Je lui ai dit, Tidiane, je te donne l'argent. Et je lui ai envoyé de l'argent. Et c'est après coup qu'il m'a dit, en fait, que sans cet argent-là, ça aurait été compliqué pour lui de pouvoir payer tout. Parce qu'il a dû tout payer. Donc, c'est lui, il a perdu sa sœur, qui se fait tuer. Mais en plus, il doit se battre contre sa propre famille et assumer tout seul le combat. Il n'y avait personne pour l'aider au Mali. C'était considéré comme étant un truc. C'est triste, mais ça arrive.
On dit quoi? Mounou ni Sabali, non?
Sabali, exactement. Kamounou, Igra Mounou, comme ils disent. Elle n'a qu'à supporter. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait, moi, cette expérience, déjà qu'à la base, je pense que j'étais déjà féministe, mais cette expérience m'a rendu plus radical que je ne le serais probablement le reste de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que, enfin, je connaissais ma cousine, et tous, en tout cas, autour de nous, en tout cas, des gens de notre âge, on se rend compte que les gens prennent ça comme étant des trucs qui arrivent qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça t'arrive à toi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que ce que vous faites, c'est le travail du Seigneur.
J'appelle ça un ministère.
Ministère, voilà. C'est le travail du Seigneur. Parce que tu dis que le Seigneur, des fois, vous applique les dits. Mais moi, je pense que, ouais, vous faites le travail du Seigneur. Et un peu comme l'entrepreneuriat, dans un sens, en fait, vous faites des choses qui font avancer la société envers et contre elle-même. Quand vous commencez, comme quand l'entrepreneur, tu commences, tout le monde dit c'est impossible. Mais ce que vous faites, c'est pas impossible. Et je pense que c'est important. Tu vois, une des questions que moi, j'ai derrière tout ça, quand je te raconte tout ça, c'est aussi pourquoi, par exemple, vous, un individuel ne peut pas vous donner de l'argent.
Si.
Ah bon?
Oui.
Il y a des dons.
Ouais, des dons. On vit aussi de dons.
C'est juste qu'elle, elle travaille plus sur le fundraising. Moi, je travaille sur
le fundraising. Ouais. Mais il y a des personnes qui nous apportent de la nourriture parce que les survivantes, qu'elles quittent le foyer, elles ont souvent besoin d'habits, de nourriture, de médicaments.
Ouais.
Donc, vous pouvez, il y a le numéro de la Ligue que vous pouvez appeler pour donner des dons, des livres pour les enfants. En pleine rentrée scolaire, les mamans qui sont parties du foyer, on peut envoyer des dons. Il y a aussi le côté volet juridique. Vous savez, c'est cher, un avocat.
Mais un avocat, c'est cher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon cousin, c'est ça qui l'a tué.
C'est extrêmement cher. Donc, vous imaginez si on a 5 cas par jour comme ça pour un avocat. Financer.
Mais il n'y a pas une... vous avez, du coup, alors je sais que ça paraît bête quand je dis ça, mais... je sais que nous, on avait créé à l'époque des packages. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait... pour que les gens sachent comment ils peuvent vous aider. Parce que des fois, moi, j'ai toujours voulu, je me dis, mais peut-être qu'en fait, ça va les mettre plus dans des problèmes qu'autre chose. Parce que je sais qu'à l'époque, quand nous, on faisait une association, Une des craintes qu'on avait à prendre les donateurs individuels, c'était qu'on avait peur que les gens, après, se gargarisent de ça.
Oui, pour dire... Nous, on ne cite pas les noms.
Voilà. Et, tu vois, et du coup, ça crée un truc où... Je sais que dans l'associatif, il y a aussi ce truc de... Tu ne peux pas prendre l'argent de tout le monde.
Exactement.
Et c'est ça le danger, en fait, du financement. Comparé... C'est comme financer une start-up, hein, quelque part. C'est-à-dire que si tu prends l'argent de quelqu'un qui est un mauvais investisseur, il va te pourrir ta vie.
Exactement.
Toute ton action peut être détruite par qui donne ton argent, qui te donne de l'argent.
Exactement. C'est pareil. C'est pareil.
Donc, je ne sais pas comment vous gérez de votre
fait... fundraising. Toi, tu vas plus être sur des institutions. Exactement,
des institutions. Il y a souvent un fundraising qu'on fait, mais de manière matérielle. C'est que pendant les mois de mai, on va dans des magasins Posuma où on a un box, en fait.
Oui.
Et où des personnes peuvent mettre des serviettes périodiques. Ou au lieu de payer des serviettes périodiques, peuvent donner de l'argent sur place. On rentre dans le supermarché, on achète et on revient. Ça, c'est une chose. Vous pouvez peut-être appeler par semaine pour demander est-ce qu'il y a une survivante qui a besoin, je ne sais pas, de nourriture. Ouais. Ou il y a un cas, vous pouvez appeler en fait. On prend et on vise aussi maintenant les entreprises qui ont compris que le RSE peut aussi nous aider. Donc, il y a des entreprises peut-être agricoles qui peuvent envoyer des machines pour les femmes dans les villages, ces genres de choses. Donc, vous pouvez nous aider, pas forcément matériellement aussi. Peut-être on nous dit, on voit votre communication, il y a cette chose qu'on peut améliorer. Ça aussi, c'est une aide. Si aussi, vous pouvez peut-être tourner des podcasts pour nous, ça, c'est une aide.
Mais ça, c'est, alors, tu vois, c'est un très bon point. Kaï, on s'est posé la question, est-ce que YouTube, on ne peut pas faire un truc sur YouTube genre don? Genre en mode, par exemple, demander à... C'est vrai que YouTube, il y a une fonction don. Les vidéos à don d'association. Oui, on pourrait l'activer pour cette vidéo.
Donc, c'est genre, c'est ça.
Tout je crois que c'est pour les directs, mais on va regarder.
On va regarder pour les directs, mais je pense que, on pourrait faire plus. Et du coup, je sais que la question que peut se poser des gens, même sur les domaines comme ça, comme tu dis, où tu es vraiment dans l'activisme, c'est après vous. Donc, toi, tu dis, OK, tu vois qu'il y a moins de cas, tu sens qu'il y a un progrès. Qu'est-ce que les gens qui voudraient demain aider et genre s'investir dans l'activisme, tu dirais? Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui demain, et pas forcément une femme, peut-être un homme qui demain veut travailler là-dedans, comment il pourrait aider? Est-ce qu'il y a besoin pour vous de gens qui viennent à plein temps? Je ne sais pas comment...
Après, tous les niveaux d'investissement, c'est-à-dire de la personne qui est de loin à celle
Exactement.
Qui...
Ouais. Vous savez qu'on travaille avec des bénévoles, il y en a une qui est en Haïti.
Ah, très bien.
Il y en a trois qui sont en France. Mm-hmm. C'est pour dire que c'est pas le physique qui est une barrière. Tu peux travailler de partout en tant que bénévole.
Ah, ça tombe bien pour
notre peuple.
Exactement. Des personnes qui travaillent de partout, qui peuvent travailler sur des appels à financement. Des gens qui peuvent nous aider à écrire aussi parce qu'on n'a pas toute la connexion de ce qu'il faut. Il y a ça. En tant que bénévole aussi, il y a des personnes qu'on appelle des sympathisants ou sympathisantes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent souvent à nos activités, mais qui ne sont pas vraiment investies. C'est-à-dire que tu peux venir, on dit, on a un truc le 7 mars quelque part, tu viens, tu nous aides à, je ne sais pas, placer les chaises et tout. Mais tu es là, comme ça, tu es sympathisant, tu likes nos choses. Et il y a des personnes qui viennent en tant que bénévole. Et chaque année, on a un recrutement qu'on ouvre. Des gens qui postulent.
On fait
un background checking sur Internet.
Bien sûr.
Parce que très souvent, il y a des personnes qui viennent juste pour infiltrer.
Carrément.
Ah oui, on a eu des cas comme ça. Des gens qui nous insultent.
En fait, j'avoue, tu vois, nous encore, en entreprise, on n'a pas ça. Les gens ne viennent pas pour postuler. C'est Seigneur,
non,
ils ont ça à faire.
Qui postulent, qui viennent. En fait, juste pour jeter le discrédit, en fait. Il y a des personnes qui viennent aussi.
Même le recrutement chez vous, c'est risqué.
Oui,
c'est risqué. Le financement est risqué, le recrutement est risqué. L'action est risquée, Seigneur.
Ouais, donc on fait ça. Donc vous pouvez postuler, c'est sur Internet. Et après, vous choisissez. La première fois, quand vous venez, vous choisissez où est-ce que vous pouvez aider. Il y a un département juridique où c'est exclusivement des personnes qui ont fait le droit. Là, on est assez strict dessus. Il y a un département qui est pas l'un des plus importants, mais c'est la porte, c'est le département des interventions sociales. Ce sont eux qui ont le téléphone quand quelqu'un appelle pour dire « j'ai été violée ». Donc, là-bas, il faut des personnes qui ont du temps.
Ouais,
ils sont disponibles. Et de l'empathie.
Il faut de l'empathie, hein, Seigneur.
Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui ont dit « président, je ne peux pas gérer, je m'en vais. »
C'est dur. Hein.
Et je l'ai dit, je préfère l'honnêteté que quelqu'un qui me ghost, qui disparaît. Parce qu'on pense que quand on vient faire du bénévolat, on donne, on ne reçoit pas. Je suis ce que je suis parce que j'ai été bénévole, j'ai été activiste à CFIS dans d'autres organisations. Je n'ai pas de diplôme en communication. Aujourd'hui, je suis experte en communication parce que j'ai appris tout sur le tas. Les médias, je les ai appris sur le tas. Et je travaille en agence de communication. Je travaille dans deux agences de l'ONU. J'envoie mon CV. Il n'y a que de l'expérience, en fait.
Exactement.
Donc, souvent, quand vous venez au bénévolat, ne pensez pas que vous venez juste donner. Vous allez recevoir
beaucoup
de point de vue même personnel, parlez avec les survivantes, voyez la vie que vous ne voyez pas derrière votre écran. Ça change la perception. Ça change. Je te dis, bah, peut-être que je suis chanceuse, en fait, d'avoir ce que j'ai. Et tu vois la vie autrement. Ça donne un peu de l'humilité, en fait. Tu reçois beaucoup et tu te dis, bah, j'ai changé la vie de quelqu'un.
J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que bénévole, ce n'est pas que donner, c'est recevoir. C'est justement, j'allais te demander ça, parce que beaucoup de gens veulent faire des actions, mais il y a cette crainte de... toi, j'ai pas le temps, ou,
ouais.
ou comment, ou même comment pire, est-ce que je fais pour vivre.
Ouais, ou si même, il y a des gens qui pensent que, ah, mais je servirai à rien.
Le truc, c'est qu'il faut savoir après, que pour être bénévole aussi, il faut... En fait, c'est un engagement envers toi et envers l'association, envers les survivantes. Si tu viens, il faut savoir que tu t'es engagé à avoir un peu de temps. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les sympathisants qui savent qu'ils n'ont pas du temps, qui ne pourront pas venir, qui sont honnêtes. Mais il y a des personnes qui viennent, tu es bénévole, tu viens aujourd'hui, tu disparais, on a besoin de personne. Et tu portes juste le t-shirt de la Ligue pour faire des photos, pour dire, moi aussi, je suis à la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, la Ligue permet d'avoir des entrées. Aujourd'hui, tu dis que tu es de la Ligue, on ne te regarde pas comme on te regarde avant. Il y a les gens qui viennent prendre des lettres de recommandation. Je suis contente de donner des lettres de recommandation. Mais aussi, derrière, il ne faudrait pas aussi abuser parce que vous représentez quelque chose. Chaque fois que je dis à mes collaboratrices, chaque jour qu'on se lève, c'est la vie d'une femme qui dépend de ce qu'on va faire. Une femme qui va appeler, une maman quelque part, une jeune fille quelque part. Donc, quand vous venez, sachez que ce n'est pas envers nous que vous avez pris l'engagement. C'est envers les survivantes.
Oui.
C'est pas Mégane, c'est pas comme, je gagne même pas des millions, j'étais payé, j'ai pas dit mon salaire, mais je gagne même pas la moitié de ce que je gagnais.
Oui.
Mais derrière, je travaille pas pour aujourd'hui, j'ai une vision, on va dire, à long terme, en fait.
Exact.
C'est ça, de permettre que quand tu viens à la Ligue, au moins, tu peux avoir ton salaire, tu peux être employé à la Ligue. C'est important parce qu'une personne qui gère les cas, qui travaille quelque part, qui vient, elle sera pas efficace, je vous le dis, c'est pas possible. Tu peux pas. Donc, quand vous venez à la Ligue aussi, il y a, même quand vous êtes bénévole partout, sachez que c'est du temps que vous venez donner. Votre première ressource, c'est le temps. Soyez honnête.
Et c'est un minimum de combien de temps pour être concret? Parce que tu disais, le sympathisant, il vient, il pose quelques chaises, etc. Oui. Mais un bénévole, tu attendrais quoi en termes de temps?
Ok, c'est... On travaille beaucoup en ligne, comme j'ai dit, on est sur Internet, on profite. Mais il y a des réunions, il y a des cas parce que c'est vrai que j'ai cité les départements, mais nous tous, on est des couteaux suisses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on te dit, il y a un cas à Bobo, tu ne vas pas dire, comme je suis au département de communication, je ne vais pas aider la survivante. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais disponibles. Et ça, c'est un problème.
Ouais.
Même pour écrire un test pour Facebook, je ne suis jamais là. Ça, c'est un problème, en fait. Donc, on fait des formations sur énorme minimum, en fait, où tu es formé d'abord en... psychologie, parce que c'est important de savoir comment est-ce que tu réagis devant un cas. Tu es formé en communication, il y a des bases, on va dire un peu la politique de l'association, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et après un an, on te valide sur tes présences, c'est-à-dire que quand tu viens aux activités, c'est noté. Quand tu gères les cas, c'est noté.
Quand tu aides sur des sujets,
c'est noté. Et après, on fait une petite cérémonie de graduation, quoi. En fait, on essaie de donner...
Donc, bénévole graduate aussi, c'est bien.
Tu es graduate et là, tu deviens membre. Quand on dit tu es membre, tu as le droit de voter là maintenant. Parce que...
Vous faites des votes aussi?
Ah bah oui.
Vous votez sur quoi? C'est intéressant.
Bah peut-être cette année, il y aura une âge, on vote sur on va dire les départements, le bureau, parce qu'il y a un bureau exécutif, il y a la SGA, il y a la Sécurité Générale, il y a plein de choses, donc il y a des votes qu'on fait. Et même pour les nominations, par exemple, les nominations sont des bénévoles qui deviennent aujourd'hui des responsables. Qui sont rentrés en tant que bénévoles, qui aujourd'hui sont responsables de départements. Et moi, c'est ma fierté quand on me demande, je dis, je ne veux pas rester présidente à vie de la Ligue.
Ah, c'est ça, la question, c'est que les gens vont poser, est-ce que toi-même, ton élection, c'est quand? Toi, tu as un mandat à vie?
Non, je n'ai pas de mandat à vie, mais je ne veux pas rester présidente à vie de la Ligue. C'est pas, si je ne passe pas le flambeau, je n'ai rien accompli. Je veux pouvoir me reposer un jour comme Mme Constance Yahi, qui est une femme qui a lutté pour qu'on ait une loi sur les mutilations génitales féminines.
C'est
une féministe, c'est notre maman. Je veux me reposer et voir que ça continue le travail. Donc, j'ai envie de créer ma boîte de communication média dans les années futures, mais je veux que déjà il y ait la formation. Aujourd'hui, quand vous tapez la Ligue, vous ne voyez pas que mon visage, c'est vrai ou c'est faux.
C'est ça.
Et c'est tout ce que je veux. Il y a des associations ou des
ONG. Il y a que la présidente.
Ou quand
d'ailleurs,
tu tapes.
On s'est même demandé qui on devait recevoir, parce qu'en fait, on savait même pour trouver que c'était toi
exactement.
Directement.
Exactement.
C'était un peu technique, on va pas se mentir.
C'était mais... technique, tu as écrit, il y a Oro qui a répondu, il y a Ocri. Mmh. Et c'est ça aussi qui est important en tant qu'association. Parce que quand vous associez votre image à une seule personne, le jour où la personne soit décède, a un petit problème, ça casse tout le travail abattu. Et moi, j'ai pas envie de ça, en fait.
C'est clair.
J'ai pas envie de ça. Je considère que toutes mes collaboratrices sont compétentes. C'est pourquoi elles sont avec moi. Mmh. Donc, si Mégane n'est pas là, à cause du burn-out ou des vacances, il y a Ocri qui peut aller parler.
Inch'Allah, ça n'arrivera plus.
Non, ouais, mais d'ailleurs, les prix Simone de Beauvoir en France en 2024, là.
Oui, le prix Simone de Beauvoir, c'est vrai.
L'année passée, j'ai eu le prix franco-allemand des droits humains. En fait, là, c'est pas moi, c'est la Ligue aujourd'hui. Ouais. Quand on parle, on dit la Ligue. Et c'est ça aussi une success story. Je vais pas vous blaguer parce que moi, je veux pas. Quand je tape, je vois juste la présidente, je me demande, bon, à part toi, là, il y a qui en fait. On sait pas à qui s'adresser. C'est quoi ta legacy? Si t'es pas là, qui va prendre le relais?
Ouais, comme une entreprise, ouais. Tu veux que ça continue au-delà de ton travail, en fait.
Tu mets en place des process, c'est
des
vraiment...
Des process, tu formes, et moi, je suis tellement contente aujourd'hui. Il y a des filles qui ont des opportunités, qui voyagent, qui vont ailleurs représenter la Ligue, je suis là.
Et tu pourrais dire quoi à toutes les personnes qui nous suivent et qui ont justement une cause qui leur tient à cœur, mais qui n'ont pas peut-être franchi ce pas de même juste créer, quelle que soit la cause, finalement. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait?
Vous n'avez pas besoin de créer. Vous pouvez changer les choses.
Voilà.
Vous avez besoin soit de parler même de ce que vous faites. Il y a des personnes qui se disent, je ne suis pas féministe ou activiste parce que je ne suis pas dans une association. Mais qui t'a dit ça? Chaque fois que tu parles chez toi à la maison...
C'est ça que tu disais tout à l'heure, même les gens qui postent...
Exactement. Tu parles à tes enfants, tes amis, tout ça.
Ta famille. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est le féminisme, moi, c'est là où je l'ai assumé. C'est quand j'ai dit aux gens... À un moment, il faut que dans notre famille, ce soit un sujet important. Nous, on est non seulement une famille chez nous, on n'en voit plus des femmes de force chez des gens avec qui elles ne veulent pas être.
C'est trop bien.
Nous, quand ça arrive, on doit être ceux qui disent arrêtez. Et même en dehors de notre famille, on doit être les quelques voix. Si 10 personnes disent il faut la renvoyer, nous, on doit être dans notre famille les une voix qui disent c'est pas normal, laissez-la tranquille. On doit être ceux qui sont... Et là où je suis d'accord avec elle sur le radicalisme, c'est comme dit Nassim Nicolas Taleb, en fait, c'est les radicaux qui changent les choses. Ce n'est pas les gens modérés. En fait, les modérés étendent le message.
C'est très bien, mais...
Mais il faut qu'à un moment, il y ait des radicaux. Et le radical du féminisme, pour moi, ce n'est pas juste dire... C'est le radical du féminisme, c'est dire gifler, ce n'est pas OK.
Et même attention, crier, ce n'est pas OK.
Même crier, ce n'est pas OK. En fait, c'est ça que ça veut dire. Insulter, ce n'est pas OK. En fait, et je dois le dire, parce que même dans ma propre famille, il y a des gens qui sont féministes, mais qui vont te dire c'est OK de gifler une femme. Parce que c'est ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'elles ont vu toute leur vie.
Le système dont j'ai
dit. Voilà, c'est ce dont tu parlais. Donc, je pense que, comme elle dit, en fait, tu peux avoir de l'action. Il faut que les gens te distinguent. Il y a, t'en fais ton métier.
Ouais.
Et ça, c'est ce qu'elle a décrit.
Tu peux être activiste sur les réseaux sociaux, ça, c'est un métier. Mais chaque jour, ce qu'on fait, comment on parle aux boutiquiers, aux chauffeurs de taxi. Moi, je suis allée à la pharmacie une fois pour acheter une pilule, en fait, du lendemain pour une survivante de viol. Et j'arrive. J'avais mon t-shirt, même la Ligue et tout. Et j'arrive, je demande, je peux avoir une pilule. Et il y a quelqu'un là-bas, derrière, qui crie, elle allait jouer un match. Au lieu de se protéger, là-bas. Je dis, mais imaginez, c'est la survivante de viol.
Ah non, elle est trop mal.
Qui arrive, qui fait ça. Parce qu'il y a un protocole, en fait, quand j'ai violé. Je ne sais pas si vous savez, il y a des choses qu'on te donne, la pilule le lendemain. Automatiquement, on ne sait jamais.
Jamais. On
donne des médicaments en cas de VIH. On te fait. En fait, il y a des processus. Donc, si une survivante à qui... On dit, la première chose, va acheter déjà une pilule si tu peux. Et qui arrive, tu vois quelqu'un comme ça, mais je leur ai fait un coup.
Oui, tu les as attrapés vite, il ne faut pas les
laisser. Je leur ai fait un coup, je dis, mais ce n'est pas votre travail de demander qu'est-ce qu'on fait dans nos corps, en fait. Souvent, même quand tu arrives pour acheter même des pilules, comment est-ce qu'elles parlent aux femmes?
Oui, il y a des femmes qui disent, toi aussi, quand même, oui.
Et puis, écrit, prégnons pour la dame qui est... Mais c'est quoi, en fait? Je ne sais pas le côté.
Ça les amuse, alors que.
Ça les amuse, c'est pas normal. Donc, chaque jour, dans les taxis, en commun, nous, quand on monte dans un taxi, il a problème. Parce que quand on met une chanson, c'est à qui on dit mon ami, il faut enlever. Ah, moi, je fais de la cancel culture souvent. Parce que.
Ouais.
Je fais attention à ce que j'écoute. Je fais attention à ce que j'écoute parce que. Amine, ça change plein de choses. Donc, chaque jour, ne pensez pas qu'il faut forcément créer, être président d'association. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis président de quelque chose. J'ai été toujours in the middle, responsable de temps. Je faisais ce que je faisais, mais ce n'était pas vraiment important pour moi. Ce sont les filles qui sont décidées. Un matin, m'ont dit, tu es président. Je dis, mais hi. Tu vois? Donc, ce n'est pas forcément être devant qui fait que vous avez de l'impact. Ça n'a rien à voir.
Ouais.
Tous les jours, chaque jour, quand vous voulez. Moi, quand je me lève, je respire le féminisme, je bois le féminisme parce que je me dis, c'est mon combat de toute toute une vie, en fait. C'est ma religion.
C'est ça. Quelle que soit ta cause, tu dois l'assumer, comme Moula disait, dans ta famille, le pharmacien à son boulot.
C'est ça.
Pour les entrepreneurs qui nous suivent en tant qu'entrepreneurs.
Avec tes employés.
Avec tes employés. Comment est-ce que tu parles, en fait?
Je sais que c'est, et c'est des petites choses, hein, tu sais. Moi, je sais que c'est très bête, mais je crois pas qu'on en ait parlé non plus ici. Mais je me souviens le jour où, dans ma boîte, on a le Red Day. Où, en fait, les femmes dans ma société ont un jour de congé en plus par mois.
Voilà, c'est trop bien.
Pour leurs règles. Mais ça, c'est un truc qu'on a mis. Et je n'oublierai jamais le jour où on a mis en place, au début, pour mes investisseurs, c'était bizarre. La première fois, on en a... En plus, nous, on leur a pas demandé leur avis, on n'a rien dit. Mais c'est, je pense, une fois, on en a parlé, je ne sais plus, au détour de notion avec un d'entre eux. Et il m'a dit, mais attends, mais du coup, c'est quand même beaucoup de congés que vous perdez, c'est Je lui ai dit, en fait, deux choses. Déjà, un, il y a le côté conviction. Pour moi, à un moment, j'ai vu leur vidéo là de quand tu as les règles, à quoi ça ressemble. Et j'ai vu les femmes autour de moi. Franchement, c'est mieux qu'elles ne travaillent pas. Mieux tu les laisses. Parce que c'est grâce à ça que nous, on est nés. C'est grâce à ça qu'on aura tous des enfants. Et clairement, vaut mieux qu'on protège que quand elles vivent ça tous les mois, elles ne soient pas en train en même temps de devoir gérer ton boulot.
C'est horrible. Hein.
C'est horrible. Et ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, oh, la chance, on ne connaît pas. Franchement, c'est la chance. Mais l'autre aspect que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, tu crées un cadre qui leur montre que c'est important. Et des fois, elles l'oublient. Hein. Tu sais que moi, il y a plein de mes employées féminines qui ne prennent pas forcément leur Red Day.
Ouais, elles vont plus s'en souvenir quand c'est douloureux.
Quand ça ne va pas. Au moins, elles savent que la boîte reconnaît que c'est douloureux. C'est pas comme si elles le prennent tous les mois, en plus. C'est ça que je leur dis. Enfin, faut pas croire. C'est pas des profiteuses. Et c'est terrible de penser ça. C'est... Alors qu'en fait, non, c'est juste à un moment, elles savent que si c'est chaud, c'est OK. Et tu ça, prends ton Red Day, ça t'apprend dans tes congés.
Que tu en parles, parce que même la question de comment est-ce que les bureaux sont aménagés.
Oui, bien sûr, c'est tout un autre débat.
Déjà, il y a des femmes qui, souvent, qui sont allaitantes, il n'y a même pas d'espace où elles peuvent tirer le lait. Tu es obligé de le faire soit dans la cuisine, dans la douche. Dans les toilettes,
ouais.
Et souvent, tu arrives dans des endroits, il n'y a même pas de petite serviette périodique quelque part, en cas de.
Ouais.
C'est en cas de, on n'a pas dit que ça peut arriver, mais en cas de. Nous, chez nous, quand j'arrive dans un espace qui se dit féministe, je regarde tout ça.
Bien sûr.
Chez nous, il y a des nattes, en fait, il y a des coussins. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, moi, j'étais couchée. Là, j'ai des règles douloureuses, c'était horrible. C'est pour ça que quand tu as parlé, c'était horrible.
Est-ce que tu as des autres comme ça
conseils à donner à des entrepreneurs actionnables. Taï veut prendre.
Mais oui, en fait, ça, c'est important. Vous allez voir que des serviettes périodiques si vous le voulez, et puis essayez d'engager même, comme je sais pas comment dire en français, to engage les personnes de l'entreprise, vous dit bah passez une boîte vide, si vous en voulez vous prenez, puis vous remplacez quand vous voulez. C'est-à-dire que les employés vont se sentir, on va dire, impliqués dans le truc, et évitez de dire journée de la femme. J'étais fatiguée, c'est pas une fête.
On aurait dû commencer par ça.
Bonne fête de quoi?
En fait, vous ne fêtez rien.
On ne fête rien.
C'est un jour de combat.
On réfléchit. On se dit, voici ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. Bonne fête. Les femmes sont nos mamans. Il a dit, mais il y a des femmes qui ne seront jamais des mamans.
Malheureusement.
Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas des mamans qu'elles ne méritent pas le respect. Donc, comment est-ce qu'on parle, en fait? Donc, comment est-ce qu'on s'exprime? Et aussi, il y a un truc qui me plaît. Je vois souvent des trucs. On dit, oui, nous sommes féministes parce qu'on a 80% des femmes. Mais les femmes, elles sont à quel poste?
Oui, c'est un autre débat.
Tu as 50 qui sont qui nettoient
tout en bas et après tout en haut, les gars.
C'est pas vraiment ton féminisme.
Et je tiens à signaler que d'ailleurs, quand vous voulez lever des fonds, ça aide beaucoup maintenant. C'est un des critères. Moi, je sais que c'est un des trucs chez nous qui avait beaucoup marqué, c'est que quand on a levé des fonds, 70% de notre management, si tu nous enlevais nous là, les vieux gars là qui ont créé le truc, 70% étaient des femmes, des managers. Et ça, je me souviens, il y a des investisseurs qui ont dit « Ah bon, sérieux ? Ah ouais, super !» Et ils étaient contents de pouvoir mettre de l'argent dedans. Donc, c'est heureusement, ça commence à être, comme tu dis, quelque chose qui apporte quelque
chose. Est-ce que tu es pour les quotas ?
Les quotas ? Je dis oui. Allez. Tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que le système...
L'administration,
Oui, vous savez, le système patriarcal a toujours abusé des femmes. Pourquoi lorsqu'on doit faire une nomination, on parle de compétences, alors que pour les hommes, là, on ne se pose jamais la question.
Ouais.
Dans un gouvernement, il y a toujours des gens qui sont nuls, mais ils sont nominés, ils sont nommés toutes les fois. Pourquoi lorsqu'on veut mettre une femme, mais est-ce qu'elle est compétente? On dit, bon, si c'est compétence en carré, mais c'est qu'il y a des gens...
On enlève nommer. Aussi.
Donc, le fait des quotas, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord parce que je me dis, plus on va nous voir, plus ils seront obligés d'accepter qu'on est compétente. Je dis n'importe quoi. Moi, j'ai commencé à rêver parce que j'ai vu des femmes à des postes de direction. Tout de suite, tu as parlé des managers. Vous pensez que c'est pas une goutte dans la mer. Quand vous le faites, la génération future, qu'elle regarde, se dit, mais...
C'est possible.
C'est possible. Donc, je suis d'accord pour les quotas. Il faut le mettre parce que plus on voit des femmes là, plus d'autres femmes vont vouloir avoir envie, en fait, d'être à cette porte de responsabilité-là. Parce que ce n'est pas une affaire de compétences. En Côte d'Ivoire, il y a les femmes compétentes, ça existe. Il y a un compendium de, féminine des compétences des femmes, whatever, ça existe. Donc, je me dis, si vraiment on veut faire de ce côté-là, on m'a dit un argument, franchement, ce n'est pas la compétence qu'il faut regarder. Il faut donner la possibilité aux femmes d'être à la table. Même si tu sais écrire, viens à la table seulement. Le fait d'être à la table, tu vas susciter des vocations et la compétence que tu cherches va venir. Mais je sais qu'elle est déjà là, en fait. Il y a des femmes qui peuvent le faire. Si tu n'as pas, ok, mais si elles sont là, donne-leur juste l'opportunité. Souvent, tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout dans la vie. Ouais. Non, tu dis juste souvent, je peux essayer.
Ouais.
Moi, mon premier boulot, on m'a demandé, est-ce que tu l'as fait ? J'ai dit, ah, je n'ai pas de diplôme, mais je peux essayer.
Tu peux essayer.
J'ai fait 4 ans là-bas.
Non,
parce qu'ils m'ont donné ma chance.
Non, c'est clair. Et le quota crée cet effet, c'est que même en admettant, ok, même si on disait ce qui est faux, encore une fois, qu'il n'y a pas de femmes compétentes, si tu mets un quota, tu vas former les femmes. Tu es obligé. C'est l'avantage du quota. Après,
ça te profite souvent, à toi, en fait.
Mais il faut l'accepter.
Il faut l'accepter.
Que ce soit une mission. Et dans le registre des questions comme ça que tu te poses, Kaï, c'est vrai que ça m'a travaillé l'esprit tout à l'heure quand tu disais qu'il faut montrer que c'est possible. Est-ce que toi, parce que c'est une question. En tant que féministe, que des fois j'entends souvent, entre féministes, est-ce que toi tu sens quand même aussi le côté que tu donnes un espoir aussi aux féministes en étant toi, en ayant un conjoint ? C'est une question indirecte, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire que les féministes...
On fait peur aux hommes.
On fait peur aux hommes. Je sais que c'est une réalité, et en tant que personne qui voit beaucoup de femmes qui, en fait, dans leur discours et dans leurs actions sont féministes, mais ont peur de l'afficher, c'est des fois, elles ont peur de faire fuir les hommes.
Bon, je vais dire que ça... En fait, c'est tellement complexe. Le privé et les politiques en même temps.
Ouais.
Mais je pense qu'en tant que féminine, on ne se définit pas forcément au travers d'un conjoint.
Exactement.
Il y a des femmes qui sont célibataires, qui le vivent bien, qui sont mariées. Mmh. Et puis très souvent, c'est un peu des préjugés, des stéréotypes.
Ouais.
Les féministes font fuir les hommes. Regardez, il y a des féministes souvent qui sont en couple, qui sont mariées, qui sont bien en fait.
Ouais, exactement.
Il y en a qui sont célibataires, qui le vivent bien. Ça existe. Moi, je pense que quand un homme souvent me dit « Ouais, j'ai peur de toi », ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas déconstruit.
C'est clair. Pourquoi il aurait peur de toi ?
Il sait qu'il y a des choses qu'il va dire qui ne sont pas bien. Il le sait.
Il le sent.
Il le sent.
Donc, comme hommes, la kryptonite, les gars, il n'est pas bien.
Les hommes qui sont avec les féministes, là, pourquoi ils n'ont pas fui ? Pourquoi ils sont encore là ? Il y a des couples qui sont là pendant des années. Pourquoi ? C'est parce que ces hommes-là, on suit. En fait, c'est important de ne pas être hypocrite, de savoir que je ne suis pas déconstruite. La déconstruction, moi, en tant que Mégane, je ne suis pas totalement déconstruite. Hein.
Forcément, comme le
je suis née quelque part, j'ai absorbé tout. Donc, de savoir que je ne connais pas tout, je peux apprendre. Mais il y a des gens qui mentent, qui font comme s'ils sont déconstruits. Maintenant, quand vous êtes face à face, tu vois que c'était un mytho. Moi, je ne pense pas que... Un homme qui fuit ou qui a peur d'une féministe, c'est qu'il n'est juste pas à son niveau, il laisse tomber, il va ailleurs. Quoi.
Oui, c'est que lui-même, comme tu dis, est encore pas capable. Et puis surtout, le point, moi je dis souvent aux hommes qui disent ça, je dis dans ce cas-là, oui, ça veut dire que tu n'es pas féministe et surtout plus grave, tu es contre le féminisme. En fait, c'est-à-dire que tu as peur d'être avec. C'est comme une religion.
C'est ça.
Et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans c'est comme si tu disais, je ne peux pas être avec une musulmane. Mm-hmm. Pourquoi ? Tu peux dire tu choisis,
oui.
Mais si tu dis elle en tant que musulmane n'a pas trouvé d'homme, ça veut dire quoi ?
Donc, exact, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là parce qu'il y a des gens qui disent ah elles vont finir seules avec des chats.
Oui,
des chiens.
Et j'avoue, les chats en plus. Ouais.
J'adore les chats, j'ai les chiens. C'est pas un problème en fait.
Les seuls.
Non, en fait,
parce que c'est l'accusation fréquente, oui, il y a la raison.
Oui. Il y a un mot, je veux pas dire, on est mal.
Et des mal baisés, ouais.
Je et si on est mal baisé, c'est qu'elle est mal baiseur. C'est pas notre faute, c'est vous en fait.
C'est les gars qui me baisent mal, voilà. Soyons au clair.
Donc c'est le truc en fait, il faut dire la vérité. Et puis souvent ils ont peur parce que, comme souvent ils croient des féministes, sont des personnes qui s'assument, qui n'ont pas peur. Mm-hmm. Parce que comme je l'ai dit, c'est une profession de foi.
Mm-hmm.
On ne dit pas à quelqu'un, tu es féministe. Ouais. C'est elle qui dit, je suis féministe.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, tu le dis, tu l'assumes. Donc quelqu'un qui assume comme ça, qui est libre, qui n'a pas peur, souvent ça fait peur aux gens qui veulent peut-être manipuler.
Ouais, forcément.
Tu sais que c'est quelqu'un qui va speak up, qui va dire des choses. Qui vont pas te plaire. Comme toi, tu es bien dans des relations où c'est toi qui es abusif. Tu sais que celle-là, il y a souvent des gens qui disent, toi, je sais que si je savais toi que je vais te taper un peu seulement, tu vas dire, mais attendez.
Un peu seulement. Genre, le gars, il prépare déjà le fait
qu'est-ce que. Les gens, ils disent ça. Je sais que même si je te frôle un peu, je dis, mais pourquoi tu vas me frôler un peu?
Dans quel coup, en fait?
Dans quel coup?
Tu sais, moi, je pense que dans ces discussions-là, il y a un vrai sujet sur la définition.
C'est vrai quoi, toi, tu dis souvent ça.
Tu vois, pour des millions de personnes, il y a des millions de définitions différentes, tu vois, même parmi les femmes,
oui.
Tu vois. Et c'est pareil, tu vois, pour faire une analogie sur le racisme, où quelqu'un, je sais pas, on va te dire, mais du coup, si je dis ça, est-ce que tu trouves que c'est raciste,
ou pas ?
Mais parce qu'en fait, la personne, du coup, sincèrement, ne sait pas.
Pas, exactement.
Tu vois. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que toi, tu vas dire oui, c'est raciste. Toi, tu vas dire non.
Bon, ça passe. Raciste, exactement.
Et donc, du coup, sur les personnes qui, comme tu dis, la kryptonite, qui ont peur, il va y avoir des gens qui sont en fait contre le féminisme, etc. Ouais. Ils vont se dire, ah, non, je ne vais pas pouvoir faire. Et puis, il y en a qui
sont ignorants.
Juste, ils sont ignorants.
Ah, je l'ai dit de l'or. C'est souvent pas ignorance. Ouais, et souvent, ils nous voient à travers un écran. Ils ne s'approchent même pas.
Mais du coup, sur cette ignorance, il y a un vrai sujet aussi sur... tout à l'heure, tu parlais du travail fait avec les enfants.
De prévention et d'éducation,
c'est ce qu'elle disait. Je voulais poser la question, est-ce que ça inclut les petits garçons?
Ah oui.
Parce qu'en fait...
C'est eux les.
C'est ça que j'ai dit. Les petits garçons, les petites filles, on parle de ça. On fait même niveau, on va dire collège et même étudiants et étudiantes. Parce que c'est très important de savoir que quand ils sont tout petits, là, ils aspirent beaucoup.
Oui, ils prennent tout.
Ils prennent tout.
Bien sûr.
Ils prennent tout. Et ça, c'est important. Et la question même de la définition, on va dire qu'on est d'accord sur une chose, qu'on défend les droits des femmes. Mais vous savez, il n'y a aucun mouvement qui est homogène. Souvent, je vois ça comme une certaine hypocrisie de vous. Oui, mais tout le monde pense ça pareil. Mais tu as vu quel mouvement qui pense pareil? Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des droits parce que des suffragettes ont posé des bombes quelque part.
Oui.
Personne ne respecte quand même.
Un peu, ouais.
Souvent.
Mais c'est comme je t'ai dit, c'est une religion. Moi, maintenant, je pense que tu as clarifié mon point.
C'est une religion.
C'est une religion comme l'entrepreneuriat.
Même à l'intérieur de la religion, les gens ne sont pas d'accord.
Ils ne sont pas d'accord. Et on est d'accord sur nos désaccords. Et c'est OK. Mais lorsque les droits des femmes sont menacés, tu sais que quand on est allé faire le sit-in, il y a des gens que je ne connaissais pas, mais on était là parce qu'on s'est dit, mais ce n'est pas normal.
C'est grave.
Et moi, je suis d'accord souvent de voir des féminines avec lesquelles je ne suis pas d'accord. It's OK. Ça ne me gêne pas du tout. Oui,
mais le problème, c'est que, entre guillemets, l'extérieur, celui qui est contre, va identifier ses désaccords.
C'est toujours
pour
normal. Parce que, et puis moi, je me dis, mais devant 20%, il y a 80%. Pourquoi je vais me baser sur les 20%? Alors qu'il y a 80% qui font du travail, mais je prends mon énergie. C'est juste parce qu'ils veulent trouver juste des...
Oui, c'est comme tu dis, ils sont contre. À un moment, t'as l'ignorant et le contre. La question, c'est où tu te situes. Et tous les mecs doivent se poser la question. Est-ce que c'est fondamentalement qu'ils sont contre et qu'ils veulent protéger leurs privilèges? S'ils le sont, bon courage, parce que ça va être la merde pour eux, je garantis que ça va pas être facile. Si c'est juste de l'ignorance, il faut qu'ils s'y confrontent. Il faut qu'ils posent des questions et qu'ils acceptent d'être ridicules. Ça va être douloureux.
C'est ça.
C'est douloureux.
Il y a tellement de contenu sur la question.
Voilà. Tu vas être ridicule. Moi, j'ai su ridicule jusqu'à maintenant. Dans plein de trucs, je ferai encore des gourdes. Tu sais, je suis un homme africain qui a grandi en Afrique.
Et qui se déconstruit.
Tiens, c'est du boulot, hein. Il y a des trucs que je sors encore. Des fois, on me dit, Moulay, pas ça. C'est OK, tu fais, mais au moins, tu le fais avant. C'est ça. Et surtout, tu ne vas pas le transmettre. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est que c'est le transmettre. Et le transmettre pas qu'à ses enfants. Moi, je parle en tant qu'homme, oui, j'aurai des enfants demain. Mais le transmettre à mon entourage. Je fais un travail avec même mon père. Il y a des trucs qu'il dit à ma sœur des fois. Je suis obligé de dire, wow, ça, mon ami, c'est pas bon. Et lui, il, sur le coup, il va dire, mais non, mais ça, c'est vos trucs de nouveau. Mais quand tu lui expliques ce que ça sous-entend, il va te dire, OK, bon.
Moi, j'avoue que au-dessus d'un certain âge, là, je me dis...
Ça passe, si.
Ça passe.
Ma mère a eu son turnover à 50 ans. C'est-à-dire, c'est à 50 ans, elle s'est rendue compte que les violences conjugales, c'était pas normal.
Bon, avec une fille, toi, je pense
Oui, mais aujourd'hui, même dans mon quartier, dans ma famille, quand il y a quelqu'un qui est tapé, on va appeler Mégane. Oui. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le féminisme.
Voilà.
Mais ils savent que je vais me battre pour ça. Et c'est ce qui est important.
Oui.
Les mamans au village, par exemple, quand on va leur parler, toi, me dites, mais moi, j'étais petite, mon père voulait pas m'envoyer à l'école. Je me suis battue, je suis allée à l'école. Il dit, mais maman, t'es féministe. Elle dit, ah, voilà. C'est juste qu'il n'y avait pas de mots. Les femmes de Grand Bassam n'ont pas marché pour leur mari. Elles ont marché contre la colonisation. C'était un acte politique.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on dit, le féminisme, ça existait. Il n'y avait pas juste pas de nom. Aujourd'hui, il y a des mots qui arrivent pour donner, on va dire, une définition à ce qu'elles ont fait.
Voilà.
Et ça, c'était du féminisme. C'est donc, ce n'est pas importé. C'est en nous.
Oui.
Donc, on ne peut pas traduire
féminisme. Sankara l'a été. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est là.
On ne peut pas traduire féminisme en doula, en baoulé. On ne peut pas. Il y a des mots qui ne peuvent pas se traduire, mais on peut expliquer.
Oui.
Et ça existe depuis longtemps.
Et tu peux l'illustrer.
Ben oui.
Il y a plein d'entre elles qui l'ont été. Et plein d'hommes le sont. C'est comme quand je disais le nom de Sankara tout à l'heure. Il l'était et il l'a appelé féminisme.
Ben oui.
Il le disait. Mais les gens ne le voyaient même pas comme tel. Ils disaient juste, ah, enfin un qui comprend.
Et il dérangeait beaucoup aussi.
Il dérangeait beaucoup pour ceux. Mais le point, je suis d'accord avec toi, les plus vieux, c'est plus dur. Tu sais pourquoi je l'ai fait avec les plus vieux? Parce que je reste convaincu que dans notre environnement, c'est quand même eux qui ont beaucoup de pouvoir.
Exactement.
Et c'est eux aussi qui ont un autre truc, j'ai remarqué, c'est que quand tu... C'est des gens qui, en tout cas, arrivent à un certain âge, mon père, etc., c'est des gens qui ont le temps aussi. Mmh. Et qui vont faire ce travail-là avec leur entourage. Mmh. Ils ont le temps. À un moment, mon père n'est plus aussi intensément... Il écoutera sûrement ce podcast, d'ailleurs, parce qu'il écoute notre podcast. Et il n'est pas aussi... Il a maintenant plus de temps pour ces combats-là. De la même manière qu'il se bat pour la transmission, c'est un combat que lui peut prendre maintenant. Il a une fille.
Et il comprend.
Il comprend maintenant. Et lui, quand tu lui... Enfin, quand il a vu ce qui arrivait à ma cousine, mon père, il était... En fait, il n'en a même pas parlé, mais j'ai senti que ça changeait. En fait, d'un coup, il s'est dit, mais merde, ça aurait pu être ma fille. Parce que c'est vraiment la... Enfin, ma cousine, c'est vraiment la fille de la grande sœur de ma mère. Mon père l'a vu comme enfant. Donc, du coup, d'un coup, en fait, il s'est dit, oh putain. Et c'est pareil pour tous, en fait. Et malheureusement, il ne faut pas attendre que ces drames arrivent.
Exactement.
Donc, si tu lui dis ça, et que tu leur dis, attends, ça aurait pu être ta fille, et là, des fois, ça suffit. Et même si ça ne suffit pas, je reste convaincu que les gens sont fondamentalement bons. Quand ils te disent quelque chose qui change leur comportement, quelque chose qui demande de changer leur comportement, sur le coup, ils peuvent te dire non. Mais le moment où ça arrivera, peut-être qu'ils vont sentir que ça fait mal à quelqu'un. Mais au moins ils ont eu le doute. Le problème, c'est si tu ne leur dis jamais, et c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est une pensée étendue. Non, sur le doute, oui, je pense. S'ils l'ont jamais entendu, ils peuvent même pas se poser la question de si c'est ok de le penser.
Et il y a un truc aussi que tu disais, moi souvent quand je parle, je fais même pas la corrélation parce que j'ai même pas envie que ça arrive à ta famille. Ouais. Je t'ai dit juste que c'est un être humain, voilà. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un. Parce que très souvent, il y a des gens qui attendent d'avoir des filles. J'ai une amie, Laïde, et des jumelles, il m'a écrit, je viens de voir qu'il y a un cas de viol sur un enfant de 2 ans, j'ai peur. Je dis, mais attends, ça fait des années que tu me connais, je me battais, tu te moquais de moi. Aujourd'hui, parce que t'as des filles, soudainement, ça t'intéresse.
Là, ça te réveille.
Fallait pas vraiment, faut juste pas attendre que ça arrive. Les femmes sont les êtres humains.
Ouais.
C'est tout ce que nous on demande, en fait. C'est ça. De la même manière qu'on respecte un homme, on respecte une femme. C'est tellement simple. Mais du moment où il y a ce côté où on l'excise, on la bat, on se dit, sous prétexte que c'est une femme, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que quand on regarde les métiers des cuistots les mieux payés au monde, ce sont les hommes. Quand on voit des femmes qui ont des brigades, souvent dans la brigade, il y a toujours des problème parce qu'ils ont du mal à admettre l'autorité. Mais bon, on dit on a la cuisine. On vient encore faire la cuisine encore. Il y a des problèmes. C'est une question d'argent. J'ai dit quoi ? C'est une question de pouvoir aussi. C'est ça, en fait, quand on regarde les inégalités. C'est juste une question de pouvoir. Quand une femme a de l'argent souvent dans les couples, qu'est-ce qu'ils disent ? Que non, on va donner un peu. Il dit bon, vous êtes sûr que c'est ça ? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le fait d'avoir de l'argent leur donne de l'ascendance sur la femme. Les mamans au foyer, je disais toujours, je dis souvent, on ne value pas le travail des mamans.
Oui,
c'est du travail qui devait être payé et rémunéré.
C'est un mérite salaire.
Parce que si vous n'avez pas votre maman, je dis n'importe quoi, qu'il y a une femme de ménage, vous la payez, non? Elle va venir, elle va gérer le foyer, charge mentale. Je pense que ce sont les entrepreneurs, les mamans, là, elles sont à la maison. Elles ont plein de choses, en fait, qu'elles font. Mais quand on parle, mais elle n'apporte rien sur la table. Tu es sûr que tu peux payer l'apport immatériel.
Quel effet, oui. Non, temps et en énergie et en compétences.
Souvent, on oublie, c'est de la compétence. Et moi, je pense que c'est tout ça qui parle aussi de rapport de force. Je dis toujours aux femmes, ne comptez pas sur l'argent du mari. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie.
C'est ça.
Un petit accident, un petit problème, et puis tu te dis, mais donc je n'ai rien. Il y a des familles qui viennent, le gars, il meurt, le corps n'est même pas froid. Ils ont tout ramassé dans la maison. Elle est femme qu'on suit comme ça, et puis elle dit non, j'ai peur. Il y a histoire de sorcellerie dedans, parce qu'elle a peur de réclamer l'héritage de ses enfants.
L'héritage de ses enfants, elle a peur, ouais. C'est un autre sujet. Parce que beaucoup d'hommes, oui, quand ils meurent, effectivement, c'est leur famille qui spoil tout.
Et souvent, les femmes ne savent même pas qu'on a le droit.
Ouais.
On leur explique. On leur dit, on va vous accompagner. Il y a des femmes qui réussissent à récupérer le truc. Ah, bah oui. C'est vrai qu'on parle des mauvais côtés, mais il y a aussi des cas où on a gagné des procès, et ça, c'est trop bien. Il y en a une, là, il y a une survivante qui était avec nous avant-hier. Elle dit, elle a juste envie de parler, elle est venue s'asseoir au bureau.
Ah bon?
Oui. On a parlé avec elle. Et ça, elle me dit, j'ai vécu pour mon mari. Elle n'a pas vécu pour elle-même. Aujourd'hui, elle allait se remarier. Ben, il l'a trompé. Il n'a pas divorcé à quelques mètres de leur maison avec une autre personne. Il ne s'occupe pas des enfants. Et c'est elle qui gère tout. Parce qu'elle n'avait rien. Elle ne travaillait pas. Elle se disait, c'est le foyer. C'est bien, mais. On ne sait jamais. La main qui demande est toujours en bas.
Ouais.
C'est
j'adore. La main qui demande est toujours en bas. Très belle.
Ah, c'est un vieux truc, on dit aussi en Côte d'Ivoire.
Ah ouais?
Oui. La main qui demande est toujours en bas.
Très beau. Franchement, je viens de découvrir encore un nouveau truc.
Beau pour conclure.
Beau pour conclure, ouais. D'ailleurs, c'est. Alors, on a deux traditions ici.
Ok.
Quand tu finis le podcast. La première, c'est on te demande dans ton téléphone quelle est la personnalité la plus connue ou la plus célèbre dont tu as le numéro.
Oula! Le numéro de l'ambassadeur du Canada qui m'écrit sur WhatsApp.
Hey, les vrais coins.
Ok. Et il fourchit de ouf. Ah. Ce monsieur, il accompagne la ligue partout. Mm. Il parle de nous. C'est un peu, il fait notre pro-dada gratuitement.
Partout. Amen. On aime. Très beau.
Cite son nom.
Il s'appelle monsieur Anderson Blanc. Merci monsieur Anderson Blanc, merci au Canada pour l'accompagnement qu'ils font. C'est exceptionnel d'avoir des e-forchis comme ça qui le disent, qui le pensent. Et j'ai une anecdote sur lui. Une fois on parlait et un journaliste lui a posé la question de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être promues et tout. Il a dit je parle pas pour elles, elles sont là, donnez-leur la parole. J'étais là.
C'est beau. Très bien, très bien. Bah, écoute, Kaï, je te laisse annoncer la deuxième tradition.
Et donc, du coup, il nous faut un mot. Il nous faut un mot qui va résumer cette conversation et que les gens qui nous ont écoutés vont utiliser dans les commentaires pour soit faire un long commentaire, soit te poser une question. Un mot qui résume un peu cette discussion.
Quel mot tu aurais choisi pour cette discussion?
Il y a tellement de mots. Je veux dire engagement.
Ah, oui, très forcément. Bien.
Engagement, les amis. Engagement. Et puis, on mettra toutes les infos sur la ligue. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire passer comme message par rapport justement à la ligue sur comment est-ce qu'on peut aider la ligue?
Oui, vous pouvez aider la ligue à travers le numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, le 0707 36 61 64. Et aussi vous dire que la défense des droits des femmes, ce n'est pas que le 8 mars, c'est chaque jour, 24 heures sur 24, 30 jours sur 30. Et voilà, ce n'est pas seulement que le 8 mars.
Voilà. Amen. Donc voilà.
Merci beaucoup, Megan.
Merci.
Merci à vous deux.
À ciao.
À très vite.